Vous êtes sur RTL.
Et merci à toute l'équipe des Petits Matins. Bonjour à tous. Invité d'RTL à 7h40 aujourd'hui, le juge pour enfants Édouard Durand. Il est co-président de la commission sur l'inceste et les violences sexuelles. Il sera interrogé par Alba Ventura. Édouard Durand a été désigné par le président Macron lui-même alors que la France semble découvrir le poids de l'inceste dans notre société un peu plus chaque jour. À 8h20, nous serons avec l'économiste Nicolas Bouzou qui publie demain une passionnante histoire qui nous projette dans l'avenir de la santé. Des progrès exceptionnels sont en cours dont le vaccin ARN n'est qu'une. Bref, une vraie bouffée d'espoir et d'esprit positif qui nous projette dans l'avenir en pleine pandémie et alors qu'un conseil de défense se tient, vous le savez, aujourd'hui. Tout cela ne nous fera pas de mal. Enfin, la semaine de l'agriculture, faute de salon, eh bien elle se poursuit sur RTL. Et là aussi, nous allons nous projeter dans les nouvelles technologies. Le métier d'agriculteur, malgré toutes ses difficultés, est porteur d'une modernisation exceptionnelle. Détail avec notre brigade de l'actualité dès 7h15. Et nous entendrons Hervé Pillot, cet éleveur vendéen, et lui-même un spécialiste des nouvelles technologies. Enfin, sachez que Delphine de Vigan est l'invitée ce matin de Laissez-vous tenter à partir de 9h et en exclusivité pour son tout dernier roman Les enfants sont rois qui paraît chez Gallimard. Nous sommes le mercredi 3 mars 2021. À tout de suite. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, Fabien Galthié, blanchi par l'enquête de la Fédération française de rugby. Et c'est une info RTL.
Le sélectionneur du 15 de France n'est pas à l'origine de l'épidémie de Covid qui a décimé l'équipe. C'est ce qu'affirme en tout cas le rapport interne qui suscite pas mal d'interrogations et de doutes. Nous allons y revenir. Un nouveau conseil de défense sanitaire ce matin et de nouvelles restrictions, sans doute d'ici la fin de la semaine. C'est un aveu historique. L'armée française a bien exécuté le leader nationaliste Ali Boumendjel durant la guerre d'Algérie. Emmanuel Macron le reconnaît pour la première fois. Il dénonce une injustice profonde et menace de saisir la Cour européenne. Nicolas Sarkozy contre-attaque 2 jours après sa condamnation pour corruption. Et puis à quoi ressemblerait notre voix sur Mars? Nous avons fait le test. Reportage étonnant en fin de journal.
La politique avec Olivier Bost.
Et justement après la condamnation de Nicolas Sarkozy, Éric Dupond-Moretti présente sa réforme de la justice aujourd'hui. Le garde des Sceaux a choisi de marcher sur les braises.
Vos explications dès la fin du journal.
RTL Matin.
C'est un rapport commandé par la ministre des Sports et censé faire la lumière sur cette fameuse bulle sanitaire qu'aurait dû respecter le 15 de France. Une bulle, disons-le, relativement perméable puisqu'elle a permis à plusieurs joueurs de sortir manger une gaufre et même au sélectionneur Fabien Galthié d'aller assister à un match de son fils. Le résultat, on le connaît, 12 cas de Covid parmi les joueurs, oui. 17 au total et le report du match France-Écosse. Bonjour Jean-Michel Rascol.
Bonjour.
Ce rapport, vous avez pu en consulter les grandes lignes et c'est une info que vous nous révélez ce matin. Il innocente le patron du 15 de France.
Oui, d'après ce document, Fabien Galthié n'est en rien responsable de l'épidémie de Covid qui a décimé le 15 de France. Le patient zéro a été clairement identifié comme un joueur de l'équipe de France de rugby à 7 au contact du 15 de France en tant que partenaire. Son test PCR était négatif, mais il était en période d'incubation. Galthié, qui avait pourtant quitté le groupe, notamment pour assister à un match de son fils au stade Jean Bouin, n'aurait pas enfreint le protocole sanitaire. C'est ce qu'affirme Roger Salamon, ancien président du Haut Conseil de Santé Publique qui pilote la commission médicale de la Fédération.
Dans mon rapport, je le mets au début, il est parfaitement clair que ce qu'il a fait, quoi qu'on puisse en penser, il avait le droit de le faire et qu'il n'y avait aucun risque particulier. Et d'ailleurs, ce n'est pas lui le patient zéro, ça c'est évident virologiquement, à la distance à laquelle il est allé voir son fils et à la distance à laquelle il y a eu des premiers cas. Et je ne dis pas ça pour le défendre, il n'a pas besoin d'être défendu, je dis ça parce que c'est la vérité.
Bon, c'est un rapport qui tombe à pic pour l'équipe de France sous le feu des critiques. Quelle crédibilité, Jean-Michel, peut-on lui accorder ?
Bien écoutez, c'est un document qui engage quand même la responsabilité de la fédération. Ses signataires sont des médecins reconnus qui composent la commission médicale, parmi lesquels Roger Salamo donc, mais aussi Éric Combe, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On attend quand même avec impatience les conclusions qu'apportera la ministre déléguée, Roxana Maracineanu, après avoir pris connaissance de ce rapport estampillé et fait faire.
Merci Jean-Michel Rascol.
Un nouveau conseil de défense sanitaire se tiendra ce matin, alors que le nombre de nouveaux cas quotidiens ne baisse toujours pas.
Près de 23 000 ces dernières 24 heures. Les règles pourraient être durcies ces prochains jours dans les 20 départements placés sous surveillance accrue. On évoque notamment un reconfinement le week-end en Île-de-France. C'est déjà le cas à Dunkerque depuis le week-end dernier. Et pour l'instant, Franck Hanson, eh bien l'amélioration se fait toujours attendre.
Oui, alors que l'hôpital de Dunkerque a déjà dû transférer près de 80 patients le mois dernier.
dernier, deux malades en réanimation ont été évacués hier en Normandie. Une première pour ne pas saturer davantage les établissements nordistes. Sur le littoral, alors que la campagne de dépistage se poursuit, le variant anglais circule donc toujours activement. Pas de relâchement pour les professionnels de santé qui restent mobilisés à tout niveau, confirme le docteur Thierry Mraovic de SOS Médecins.
Ce qui a tendance à monter beaucoup, ce sont les appels à SOS Médecins pour aller voir des patients qui se dégradent 8 jours, même 15 jours après avoir été contaminés et malades, et qui ont besoin d'un avis médical chez eux, et parfois malheureusement une hospitalisation. Je suis assez inquiet effectivement pour les 15 jours à venir, puisque toutes ces mesures commenceront à avoir un impact probablement que dans un délai de 2 semaines. Il y a un incendie, un brasier a complètement éteint.
Plusieurs établissements de la région doivent déprogrammer certaines interventions pour libérer des lits. Sur le front de la vaccination, des créneaux supplémentaires ouvrent, et un nouveau centre sera en service dans le Dunkerquois la semaine prochaine.
Frank Hanson, la haute autorité de santé, préconisait un recours plus important aux pharmaciens, aux infirmiers et aux sages-femmes pour accélérer le rythme de la vaccination en leur permettant d'utiliser tous les produits autorisés en France. Pour le moment, ils ne peuvent injecter que l'AstraZeneca. C'est un pas supplémentaire vers l'apaisement des relations avec l'Algérie et pas des moindres. Pour la première fois hier, Emmanuel Macron, au nom de la France, a reconnu le meurtre de l'avocat et dirigeant nationaliste Ali Boumendjel, torturé et assassiné par l'armée française durant la guerre d'Algérie. Un meurtre à l'époque maquillé en suicide. Bonjour Brice Dugénie.
Bonjour.
Nous sommes en 1957, en plein conflit, et Ali Boumendjel est ce qu'on appelle un opposant gênant.
Oui, et au cours de la bataille d'Alger, Ali Boumendjel est arrêté le 9 février 57 pour son engagement au sein du FLN. Torturé, il meurt en prison le 23 mars. L'homme se serait suicidé en se jetant du 6e étage, scénario auquel n'ont jamais cru ses proches. Et en 2001, dans ses mémoires, le général Ossarès reconnaît que c'est bien lui qui a ordonné à ses hommes de pousser l'avocat de 37 ans d'une passerelle de cette prison. Il l'avait redit sur la chaîne Histoire.
C'est moi qui l'ai fait exécuter. Boumendjel avait dit, ben oui, je suis le ministre des Affaires étrangères du FLN. J'ai décidé, c'est moi qui l'ai décidé. Et il y aurait le rez-de-chaussée de l'immeuble. Ben, il ne peut pas sauter par la fenêtre du rez-de-chaussée, ce serait idiot. Mais dans l'autre immeuble, mais il y a 9 étages. Et il y a une passerelle qui les sépare et qui saute de l'autre immeuble.
Après ses aveux, Malika Boumendjel, la veuve, a attendu, espéré toute sa vie que la France reconnaisse la responsabilité de son armée. C'est désormais chose faite, mais elle est décédée il y a 6 mois. Elle avait 101 ans.
Les récits signés Brice Dugénie du service étranger de RTL.
Il est 7h06, la contre-attaque de Nicolas Sarkozy, 48 heures après sa condamnation dans l'affaire des écoutes.
3 ans de prison, dont un enfer, je vous le rappelle, pour l'ancien président reconnu coupable de corruption. Il a depuis fait appel et c'est dans le Figaro qu'il choisit, sans attendre, de régler une partie de ses comptes. Marie Mollet, une certitude, ce verdict, il ne le digère pas.
Oui, une justice injuste et des juges partiaux. Voilà en somme ce que dénonce Nicolas Sarkozy pour sa première contre-offensive. « J'ai été condamné pour ce que je n'ai pas fait », dit-il. « J'ai ressenti l'injustice profonde, choquante ». L'ancien président de la République, fidèle donc à sa ligne de défense habituelle, qui attaque nommément certains de ses juges et le travail de l'instruction. Un dossier sans preuve, dit-il, truffé d'incohérences. Alors il prévient, il est prêt au combat, quitte à utiliser tous les recours, jusqu'à la plus haute juridiction européenne, la CEDH. Quant à son retour en politique pour 2022, qui fait fantasmer une partie de la droite, il ferme encore une fois la porte. J'avais dit que je ne serais pas candidat à la présidentielle, je le maintiens, mais en temps voulu, je dirais qui je soutiens et pourquoi je le fais, comme un petit avertissement pour les prétendants à l'Élysée, à ceux qui seraient tentés de le soutenir un peu trop mollement dans les mois à venir.
Marie Mollet du service politique de RTL. Alerte aux particules fines en Ile-de-France. Ce mercredi, la circulation différenciée est mise en place depuis 5h30. Seuls les véhicules équipés d'une vignette critère 0, 1 ou 2 peuvent circuler. La vitesse maximale est également réduite.
Le salon de l'agriculture et sur RTL.
Toute la semaine, RTL mobilisée auprès de nos agriculteurs privés de salon cette année, vous le savez. Et ce matin, focus sur l'agriculture connectée. GPS, applications, outils radar. Ils équipent de plus en plus d'exploitants en leur permettant d'optimiser les rendements. Exemple avec cet agriculteur à Pucey dans l'Essonne que vous avez rencontré, Hortense Crépin.
Là, j'ai plus qu'à appuyer sur un simple bouton.
Installé dans la cabine de son tracteur, Victor Rabier met le contact, puis pianote sur le clavier situé près de son volant. Ça y est, son GPS connecté est en route.
Et là, ça se dirige tout seul, moi je touche plus au volant. Sur cet écran, je gère tout le tracteur, y compris l'agriculture de précision. Je peux gérer mon épandeur d'engrais, mon semoir, mon pulvérisateur.
Depuis qu'il a repris l'exploitation de son père en 2019, le jeune agriculteur a équipé deux tracteurs et une moissonneuse-batteuse avec cet appareil au rôle bien précis.
Dans la parcelle, c'est le GPS qui s'occupe de diriger le tracteur, de diriger l'outil qui est derrière. Et moi, ça me permet de m'occuper uniquement de mon outil, par exemple, et de pouvoir régler avec précision tout au long de la journée.
Le GPS cartographie aussi toutes ses parcelles, ce qui lui permet de ne jamais retravailler le même endroit.
Donc du coup, je passe qu'une fois, j'use moins mon matériel, je consomme moins de carburant, je consomme moins de temps, évidemment. Et du coup, je consomme principalement moins d'intrants, que ce soit des produits phyto ou des engrais. C'est super intéressant.
Alors ces appareils ont un coût, plusieurs dizaines de milliers d'euros chacun, mais Victor Rabier ne regrette pas son investissement.
Notre premier boulot à nous, c'est quand même de nourrir les gens et de les nourrir avec une nourriture de qualité. Et donc c'est du temps à passer, c'est des progrès à faire. En termes de technologie, c'est toujours en progression. Il faut absolument qu'on soit à la veille de ça, parce que c'est vraiment des gains pour nous considérables.
Et pour compléter ses équipements, il dispose aussi d'une station connectée à sa ferme pour connaître la météo et les besoins en eau de ses cultures.
Un reportage signé Hortense Crépin.
Nous y reviendrons à 7h15 avec notre brigade de l'actualité, Virginie Garin et Hervé Pillot, qui est éleveur en Vendée et spécialiste des nouvelles technologies. Imaginez un instant qu'il soit possible de parler sur Mars. À quoi ressemblerait notre voix ?
Eh bien, grâce à la NASA et aux premières données récupérées par le robot Perseverance, on peut désormais s'en faire une petite idée. Un simulateur de voix est disponible et c'est étonnant. Tendez bien l'oreille. Sophie Jousselin a testé pour nous.
Touchdown confirmed. Allô la Terre, ici Mars. Si ma voix vous semble un peu sourde, c'est qu'ici l'atmosphère est composée presque exclusivement de CO2, du gaz carbonique qui absorbe les sons aigus.
Et ici sur Terre, les ingénieurs de la NASA expliquent également que sur la planète rouge, les sons portent moins loin, se propagent moins bien, parce que la densité y est 100 fois inférieure. Par exemple, s'il y avait des oiseaux à la surface de Mars, même à quelques dizaines de mètres de nous, leur champ serait imperceptible. Et si la planète était recouverte d'océans, le va-et-vient martien inciterait beaucoup moins à la baignade que les vagues de la côte atlantique.
Sur Mars et RTL en 1955, je viens de tabou, attendez-vous à savoir. On a réinventé la radio.
Absolument. Sophie, justement.
Les courses, elles ont lieu à Vincennes.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 3, le 12, le 13, le 10, le 4, le 2 et le 11, le 13, Burning Man, c'est la dernière minute.
Burning Man, le 13. Tiens, tiens, tiens.
Voilà, l'homme qui brûle.
Mais oui, c'était le journal de Dominique Tenza. Il est 7h11, la politique avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Olivier, au lendemain de la condamnation en première instance de Nicolas Sarkozy, le garde des Sceaux a choisi de présenter sa réforme de la justice. C'est osé, non ?
Bah vous savez, Éric Dupond-Moretti aime quand son auditoire perd son attention, créer la surprise et provoquer un petit peu, une technique de prétoire. Et dans une interview au Point, alors que l'effet de la condamnation de Nicolas Sarkozy n'est pas retombé, que l'ancien chef de l'État crie ce matin à l'injustice dans le Figaro et qu'il le refera ce soir aux 20h de TF1, eh bien, Éric Dupond-Moretti dévoile sa réforme de la justice. Dans le Point, donc, il a choisi de marcher sur des braises encore chaudes.
Mais pardonnez-moi, c'est quoi le rapport avec la condamnation de Nicolas Sarkozy ?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que les magistrats ont coincé Nicolas Sarkozy lors d'une enquête préliminaire de plus de 5 ans où il cherchait tout autre chose. Et pendant cette longue enquête, les juges ont écouté notamment Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog et l'ami de Thierry Herzog, un autre avocat à l'époque, un certain Éric Dupond-Moretti. Le garde des veut donc maintenant limiter le temps d'enquête préliminaire et établir un strict secret de la défense pour que chacun puisse dire ce qu'il veut à son avocat sans être écouté et sans le retrouver contre lui dans un procès.
Mais ça veut dire que l'affaire Sarkozy inspire en partie la loi ?
Disons que deux dispositions de cette future loi s'attaquent ou corrigent, c'est comme on voudra, ce qui a amené à la condamnation de Nicolas Sarkozy.
Oui.
Ce ne sera pas rétroactif, attention, cela ne changera rien au procès en appel. Pour être clair, ce n'est pas ça qui va sortir Nicolas Sarkozy de ses ennuis judiciaires, ce n'est pas une loi d'amnistie. Et puis, il n'y aura pas que les changements sur les enquêtes préliminaires et le secret de la défense. Éric Dupond-Moretti veut laisser une réforme de son passage à la chancellerie pour, explique-t-il, rétablir la confiance entre les Français et leur justice.
Mais Olivier, vous n'êtes quand même pas en train de nous dire qu'Éric Dupond-Moretti règle encore ses comptes avec les magistrats ?
Eh bien, quand on lui fait remarquer, il dit invariablement, non sans malice, qu'il veut redonner confiance en la justice. Il ne choisit pas un moment calme, c'est le moins qu'on puisse dire, pour le faire. Éric Dupond-Moretti avait annoncé la couleur d'ailleurs dès sa nomination au ministère de la Justice. Son entourage plaide aussi un calendrier serré. La loi doit être présentée dans un mois en Conseil des ministres avant de trouver une place à l'Assemblée avant l'été. Une place rare que lui a accordée Emmanuel Macron parmi les dernières réformes du quinquennat. Hier matin sur RTL, le président du parquet national financier, votre invité Yves-Jean-François Bonner, a rappelé qu'en tant que magistrat, il ne faisait qu'appliquer des lois votées par les parlementaires, par les politiques. C'est vrai, Éric Dupond-Moretti va donc changer la loi. Le message est quand même très clair pour tout le monde.
Merci beaucoup Olivier Bost. On vous retrouve sur RTL.fr et je vous redonne notre rendez-vous de 7h40 avec Alba Ventura qui reçoit ce matin le juge pour enfants de Bobigny, Édouard Durand. Il vient d'être nommé co-président de la commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Rendez-vous donc dans une trentaine de minutes. Dans un instant, RTL continue sa semaine consacrée à l'agriculture. Il n'y a pas de salon, mais nous sommes présents et nous serons avec notre brigade de l'actualité et un éleveur de Vendée pour comprendre comment l'agriculture se modernise et utilise les toutes nouvelles technologies. Vous allez voir, c'est passionnant. A tout de suite sur RTL, il est 7h14.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h16. Vos vaches, cochons, couvées, faute de salon, vous savez qu'RTL, cette semaine, est aux côtés de nos agriculteurs. Ce matin, nous allons vous montrer la place énorme qu'ont prise les nouvelles technologies dans ce secteur. On l'a entendu dans le reportage de 7h, le métier d'agriculteur est devenu l'un des plus high-tech qui soit aujourd'hui. GPS, drone, intelligence artificielle, ces agriculteurs 4.0 sont-ils encore une minorité? Notre brigade nous explique ce matin à quoi ressemble une ferme aujourd'hui. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour à tous.
Les paysans, tout en gardant les pieds sur terre, ont de plus en plus la tête devant un ordinateur.
Et oui, quand on s'extasie devant les voitures autonomes de Google qui se conduisent toutes seules, eh bien les agriculteurs, ça fait un moment que leur tracteur est relié au satellite et qu'il se pilote tout seul. Tous aujourd'hui travaillent avec un smartphone et un ordinateur, de l'éleveur de vaches qui va surveiller son troupeau depuis son portable, au producteur de céréales, on l'a entendu dans le reportage, oui, qui gère, lui, ses cultures depuis l'espace avec un GPS.
Alors ce qui est très intéressant, c'est que l'un des objectifs est de mieux respecter l'environnement. Il y a un intérêt écologique.
Alors, le premier objectif est évidemment de faciliter le travail, le rendre moins pénible, de mieux produire ensuite. C'est un métier incertain, donc tous les outils qui permettent de prévoir une sécheresse, une maladie, c'est de l'argent gagné. Et puis aussi, effectivement, pour les aider à produire plus proprement. Donc, mettre la juste dose ou de supprimer même les pesticides en connaissant le besoin en temps réel de la plante. Grâce à la couleur des feuilles ou de la terre observée depuis un satellite, on peut adapter l'irrigation ou le besoin en engrais.
Alors, on le sait, l'une des tâches les plus compliquées, c'est le désherbage. Et là encore, la technologie peut aider.
Alors, pour désherber, le plus pratique, c'est le glyphosate. Mais la technologie peut aider à s'en passer dans certaines conditions. De plus en plus d'agriculteurs, et notamment en bio, utilisent des bineuses pour désherber, guidées grâce à une caméra. Les plus récentes sont en 3D. Elles savent distinguer une mauvaise herbe d'un plant de pomme de terre. Elles aident l'agriculteur à biner au bon endroit dans son tracteur. Mais à terme, il y aura des robots pour désherber à sa place. Alors ça existe. Par exemple, vous avez Dino, un petit robot français qui peut se balader tout seul dans un champ de laitue avec des capteurs. Il a comme des yeux qui reconnaissent ses laitues et donc il arrache tout le reste.
Tout ça coûte encore cher, j'imagine. Ils sont aidés, nos agriculteurs, pour s'équiper ?
Oui, ils sont aidés. En fait, la société leur demande de produire plus propre et des produits plus sûrs, alors que leurs concurrents ont beaucoup moins d'exigences. Donc, dans le plan de relance, justement, post-Covid, un demi-milliard va être consacré à aider les agriculteurs à réussir leur transition écologique grâce à la recherche et aux nouvelles technologies, à acquérir du matériel pour être compétitif et pour qu'il reste un maximum de paysans en France.
Merci beaucoup Virginie Garin de notre brigade RTL.
Yves Calvi sur RTL.
On vient de l'entendre avec Virginie Garin, les céréaliers, les grandes cultures sont devenues high-tech. Et dans les élevages, que se passe-t-il avec nos vaches, nos cochons? Je me tourne vers Hervé Pillot. Bonjour Hervé Pillot.
Bonjour Yves Calvi.
Vous avez fait 15 salons de l'agriculture à Paris avec vos vaches laitières. Vous habitez à Mareuil-sur-Lay en Vendée. Et vous êtes devenu l'un des meilleurs spécialistes des nouvelles technologies en agriculture. Alors, par définition, cela m'intrigue Hervé Pillot. Et je pense que nos auditeurs ont la même curiosité que moi. Dans les étables aussi, on est connecté avec les nouvelles technologies?
Ah oui, bien sûr, et depuis longtemps. Je voudrais d'abord couper court à une idée reçue. Le numérique, c'est pas l'affaire des grosses exploitations industrielles ou pas que. Certains voudraient le laisser croire, mais oui, on peut associer élevage à taille humaine, bien-être animal et confort de l'éleveur. Et ça, c'est le numérique va nous apporter des services considérables pour y arriver. Je vais vous donner un exemple concret, oui. Celui des robots de traite. Ils sont dimensionnés à peu près pour 60-70 vaches, donc c'est à taille humaine. Je vais vous parler par exemple de mon copain Étienne, le youtubeur de France Agricultuitos. Il est connu, on le voit souvent sur les télés, dans les radios. Alors qu'il est...
Agricool, c'est son nom.
Pardon ?
Agricool, c'est son nom.
Agricool, c'est ça, voilà. Oui. À l'heure qu'il est, là, il est en train de prendre le petit déjeuner avec ses enfants pendant que les vaches se traient, ou elles vont se traire plus tard ou avant. Alors, il va surveiller sur son smartphone les indications que lui donne le robot, et puis après le petit déjeuner, il ira faire un tour dans l'étable pour voir si tout se passe bien, pour contrôler les choses, s'il y a des anomalies, parce que ça, le robot va pas le faire tout seul. Alors, on a aussi depuis longtemps les caméras pour surveiller le comportement des animaux.
Oui.
Autrefois, vous savez, moi j'ai 64 ans, quand j'étais jeune, on se levait 4-5 fois dans la nuit en période de veillage. Maintenant, on peut surveiller de notre lit en pleine nuit si tout se passe bien, parce que vous savez, parfois les vaches, les chèvres, les brebis, elles ont besoin de l'éleveur pour les assister à la mise bas. Donc ça nous permet ça. On a même des choses encore meilleures qui nous arrivent. La e-médecine vétérinaire est en train d'arriver dans les élevages. On a une jeune start-up à Nantes, IARD, qui commence à analyser le comportement des animaux à partir des images de ces caméras, et ça permet de détecter des anomalies et puis d'alerter l'éleveur, d'alerter le vétérinaire et d'aller plus vite, plus tôt. Alors en allant plus vite et plus tôt, ben c'est des économies, c'est aussi moins d'antibiotiques ou des choses comme ça. Donc ça, c'est le numérique qui nous le permet. Le numérique va nous permettre aussi d'assurer par nous-mêmes la traçabilité et la communication sur nos produits. C'est ce qu'on fait chez moi à Vendée avec une marque qu'on a créée il y a 3 ans maintenant, Juste et Vendéen, qui permet, en validant sous blockchain, d'assurer la promesse des valeurs de nos produits. Alors on le fait aujourd'hui avec du lait, avec du miel, avec des œufs. Alors demain, on peut l'imaginer, on le fera peut-être avec du steak haché, c'est à peu près sûr, des pommes, de la chicorée, pourquoi pas, j'adore moi les endives.
Oui, attends, je vous interromps parce que vous êtes intarissable et c'est passionnant, donc moi j'avais pas à m'immiscer. Juste, rassurez-moi, on a encore des chiens de berger dans les montagnes parce que maintenant que vous avez des drones pour surveiller...
Il y en a encore, mais là aussi, c'est l'élément pour moi qui me fait vraiment rêver, vraiment envie.
Oui.
Vous savez, l'éleveur, il passe un temps fou à planter des piquets, à étendre des kilomètres de fil. C'est fastidieux, c'est dur. Et là, les clôtures virtuelles arrivent. C'est-à-dire qu'on pourra dessiner l'enclos sur son smartphone et les vaches auront une petite alerte électrique, bien sûr,
oui.
Quand elles s'en approchent trop. Mais c'est beaucoup moins violent que la décharge qu'elles recevront dans un fil. Et pour l'éleveur, ben, c'est beaucoup moins de fatigue et un confort sans égal demain pour les animaux. Donc, on pourra gérer le pâturage de cette façon-là, de façon très simple. Alors, vous allez me dire, tout ça a un coût. Oui,
oui.
C'est vrai. Mais je pense que le développement fait que les coûts baissent considérablement et seront demain à la portée de tout ou presque de tous les éleveurs. Et puis, pour tout vous dire, si on veut demain vraiment permettre aux éleveurs ce confort et avoir le bien-être animal, eh bien, il faut s'assurer que notre métier, il a un prix, une juste rémunération de nos produits et puis un vrai confort. C'est le confort de ce travail, la rémunération des éleveurs qui feront que demain, on aura des jeunes qui s'installeront dans notre métier.
Vous savez quoi, Hervé Pillot ? Vous êtes passionnant. Je n'ai même pas eu à vous poser mes questions puisque vous avez répondu à tout ce que je voulais vous demander. C'est parfait. Et j'ai bien noté aussi qu'aujourd'hui, même les clôtures dans les champs seront connectées, ce qui est un bouleversement. Alors là, absolument pour tout le monde. Merci infiniment, Hervé Pillot, pour cette discussion passionnante sur nos agriculteurs à l'heure des nouvelles technologies. Très bonne journée à vous. Merci aussi à Virginie Garin. Et rendez-vous sur RTL.fr et notre application pour suivre et réécouter l'intérêt à l'agriculture. Dans un instant, on va avoir des nouvelles du ciel avec Louis Bonin. Ça concerne aussi nos agriculteurs. Bonjour Louis. Du rire avec nos grosses têtes en pleine forme. Et puis une pépite d'Anthony Martin. Bonjour Anthony.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À tout de suite.
RTL. Toujours avec vous.
RTL Matin. Yves Calvi.
7h25, notre pépite musicale. Anthony Martin, on vous écoute.
Alors je vous propose ce matin d'écouter la voix de Marguerite Duras. L'auteur de L'Amant, d'Un barrage contre le Pacifique, nous quittait il y a 25 ans jour pour jour. Et un autre de ses romans, Le Vice-Consul, avait inspiré son film India Song, sorti en 1975. La chanson-titre du film était interprétée par Jeanne Moreau. Et c'est précisément avec sa grande amie Jeanne Moreau que Marguerite Duras avait enregistré cette année-là, en 75, un duo sur une des musiques du film India Song. Ce duo, qui ne figurait pas sur la bande originale du film, n'est pas chanté. Il s'agit de leur deux voix mêlées le temps d'un dialogue sur un texte écrit par Marguerite Duras. Les mots décrivent le décor et l'ambiance du film, la mousson, l'Inde coloniale, Calcutta et le désir qui n'est jamais loin chez Duras. C'est un document et c'est notre pépite du jour, Marguerite Duras et Jeanne Moreau réunis le temps d'une rumba des îles.
Cette couleur verte, elle grandit, l'océan Indien. Ces joncs, le riz, elles vont vers le grand Mandel. Sur les talus, ces taches sombres, les gens, la densité la plus élevée du monde. Ces miroirs noirs, la rivière Indienne. Ces lueurs là-bas, on brûle les morts de la faim. Touristes de Ceylan. Qu'elle est blanche, qu'elles sont blanches les femmes de Calcutta. Que dans 6 mois ne sortent qu'avec le soir. Fuit le soleil.
C'est émouvant, les voix de Marguerite Duras et de Jeanne Moreau dans la rumba des îles. C'est le titre de ce slam avant l'heure, hein. Finalement, moment d'effusion créatrice. On était en 75, très belle musique du compositeur Carlos D'Alessio. Marguerite Duras n'avait pas d'argent pour faire son film India Song et elle avait choisi ce musicien franco-argentin parce qu'il avait accepté de travailler gratuitement pour elle.
Ben, ce sont les petites histoires de la grande histoire du cinéma et de la musique, en l'occurrence ce matin. Merci beaucoup Anthony, on se dit à demain pour une nouvelle pépite. Les grosses têtes, nous avons rendez-vous de 15h30 à 18h et elle s'intéresse bien entendu aujourd'hui à Carla Bruni.
C'est sa meilleure avocate en revanche.
Ah oui.
Vous avez vu le tweet,
oui, l'Instagram.
Ah, elle a fait
un joli
tweet, un bel Insta
tweet
pour dire mon amour. Mon amour, tu es innocent.
Ouais, et si après 50 ans, t'as pas un bracelet électronique, c'est que t'as loupé ta vie.
Depuis le grand studio RTL cet après-midi, dès 15h30, Laurent Ruquier sera accompagné de Gérard Jugnot, Bernard Mabille, Christine Bravo, Marcella Yacoub, Jean-Marie Bigard et Paul Elkarat. Bonjour Louis Baudin.
Rebonjour Yves.
Alors, cette météo, à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui ?
Eh ben encore une grande douceur cet après-midi, mais un ciel un petit peu plus voilé. Ce sont des nuages très élevés dans le ciel qui vont recouvrir une bonne partie de la France. Assez spectaculaire quand on regarde l'image satellite. Là, il y en a des Pyrénées jusqu'aux frontières de l'Est. Ça va être comme ça toute la journée. Mais comme ce sont des nuages très élevé, ben ça ne donnera pas de pluie et ça n'empêchera pas une belle luminosité, même d'accord, si elle peut être un peu voilée. En tout cas, on n'aura pas ce ciel tout bleu qu'on a pu avoir ces derniers jours. Le ciel bleu, on le retrouvera un petit peu quand même dans la moitié nord, où là, ce voile nuageux sera beaucoup moins épais, sauf dans le nord-ouest, parce que ça, c'est la nouveauté du jour. Une petite perturbation qui glisse en ce moment sur la Bretagne, apportant des nuages, quelques pluies. J'en vois là sur l'Ille-et-Vilaine, ça remonte même sur le Cotentin. Et cette petite perturbation va progresser cet après-midi vers la Normandie, le Val-de-Loire et ce soir sur l'Île-de-France ou encore le Nord-Pas-de-Calais. Avec quelques pluies, des nuages, donc dégradation dans le nord-ouest avec ces pluies qui resteront quand même limitées, mais un peu d'humidité. Puis côté température, ça bouge pas, toujours une grande douceur, moins de gelée ce matin. J'en ai trouvé à Chamonix, à Nevers ou encore à Charleville-Mézières, mais ailleurs on est souvent déjà entre 5 et 10 degrés. Et cet après-midi, 14 à 17 degrés dans la moitié nord et près de la Méditerranée où ça baissera un petit peu par rapport à hier, et 17 à 19 degrés dans les autres régions de la moitié sud.
Douceur et nuages, voilà pour le menu global de la météo. Merci Louis Baudin, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 3 mars. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce mercredi est un jour d'hommage. Hommage à Aymen, cet adolescent de 15 ans tué par balle vendredi dernier dans une maison de quartier. Dans cette affaire, deux frères de 17 et 27 ans ont été mis en examen écroués. Leur motif reste flou. Peut-être une rivalité entre boxeurs. Une marche blanche a lieu cet après-midi sur place à Bondy. Marche blanche organisée par l'entraîneur d'Aymen, Christophe Hamza.
Je réalise toujours pas. J'ai perdu 5 kilos. Je suis fatigué de penser. C'est une histoire de gamin, tout ça, à la base. Personne ne s'attendait à une tragédie comme ça.
À quoi va ressembler cette cérémonie ?
À 16h, on va se donner rendez-vous au centre Nelson Mandela. On va déposer des fleurs. C'est important pour la mémoire de Aymen et pour ce qui s'est passé, pour cette violence gratuite. On va tous se retrouver. Je pense ça va venir d'un peu partout. Et puis on va se cueillir sur une minute de silence.
Le prof de boxe d'Aymen au micro RTL d'Alice Moreno.
Alors, va-t-on vers une série de reconfinements locaux ? Un nouveau conseil de défense se tient ce matin à l'Élysée.
Au menu, les nouvelles restrictions qui pourraient être mises en place dans les 20 départements les plus touchés par le Covid. Le gouvernement espère tenir avec des mesures ciblées jusqu'à ce que la couverture vaccinale soit suffisante, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, il faut tenir. C'est la devise du gouvernement pour traverser ce mois de mars, annoncé de longue date comme celui de tous les dangers. Et ça se vérifie. Les entrées à l'hôpital ont bondi ces dernières 48 heures dans certaines régions. Alors l'exécutif s'accroche à la seule lueur d'espoir à court terme, le déploiement de la campagne de vaccination pour alléger la pression sur l'hôpital. D'ici 4 à 6 semaines, selon Emmanuel Macron, en avril-mai pour Jérôme Salomon, au printemps, disent d'autres, l'horizon commencera à s'éclaircir. Mais d'ici là, il faut piloter au jour le jour, en fonction des chiffres et en associant les acteurs locaux, en particulier dans les départements en vigilance renforcée. Un couvre-feu le week-end, rien n'est décidé, met en garde un conseiller du Premier ministre. Le Conseil de défense de ce matin actera à minima la poursuite du couvre-feu à 18h, mais si à un moment la situation n'était plus maîtrisée, un ministre n'exclut pas en privé le retour d'un confinement dur, comme il y a un an, tout en ajoutant « nous faisons tout pour l'éviter ».
Marie-Bénédicte Allaire. Nicolas Sarkozy contre-attaque. Dans une interview au Figaro, l'ancien président dénonce une injustice profonde après sa condamnation à de la prison ferme dans l'affaire des écoutes. Il se dit plus déterminé que jamais et il n'exclut pas d'aller devant la Cour européenne de justice pour se faire entendre. La réforme de l'assurance chômage, elle s'appliquera finalement à partir du 1er juillet et pas le 1er avril. Une réforme qui s'appliquera de façon progressive vu le contexte économique. Par exemple, le durcissement de l'ouverture des droits dépendra d'une amélioration du marché de l'emploi. Une réforme aménagée donc, mais une réforme quand même. Et pour le négociateur force ouvrière Michel Boga, ça ne va toujours pas.
Quand tout allait bien, la réforme était mauvaise. Donc là, que tout va mal, on ne va pas dire que la réforme est bonne. Même avec des aménagements, parce que ça reste des aménagements à la marge. Et ces aménagements font malgré tout que les économies seront supportées par les seuls demandeurs d'emploi de demain. Puisque c'est eux qui vont voir leur indemnisation baisser. C'est en quelque sorte une réforme punitive des demandeurs d'emploi précaires.
Michel Boga avec Éric Vanier. Parlons maintenant d'une autre forme de précarité, la précarité menstruelle. Selon une étude de la FAGE, la Fédération des associations étudiantes, 13% des jeunes femmes ont déjà dû choisir entre l'achat de protection hygiénique et l'achat de nourriture. Le gouvernement a promis la gratuité des protections dès la rentrée prochaine. Mais d'une manière générale, les étudiantes seraient plus touchées par la crise que les étudiants car elles ont des dépenses supplémentaires, les antidouleurs ou les consultations gynéco. C'est le message de Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF.
C'est 534 € en plus par an pour les étudiantes, donc de dépenses par rapport aux étudiants. Et malheureusement, toutes ces dépenses, elles ne s'arrêtent pas avec la crise sanitaire, même si on perd nos emplois étudiants. Et c'est pour ça qu'on a de nombreux témoignages d'étudiantes qui ont dû fabriquer leur protection périodique avec ce qu'elles avaient sous la main pour pouvoir vivre pendant cette crise.
Mélanie Luce de l'UNEF. Emmanuel Macron fait de nouveau un geste de réconciliation envers l'Algérie. Le chef de l'État reconnaît au nom de la France que le nationaliste Ali Boumendjel a bien été torturé et assassiné par l'armée française. C'était en 1957, pendant la guerre d'Algérie. La mort de cet avocat avait été présentée à l'époque comme un suicide. Le rapport sur le cluster du 15 de France, innocente, Fabien Galthié. C'est une information RTL. L'entraîneur d'Éric Bimène français était dans la tourmente après le report du match France-Écosse dans le tournoi des Six Nations, car Galthié est sorti de la bulle sanitaire pour aller voir un match de son fils. Mais c'est en fait un joueur de rugby à 7 qui serait le patient zéro. C'est en tout cas ce qu'affirme ce rapport, rapport rendu par la Fédération.
7h35, la belle histoire du jour est une histoire d'une coïncidence incroyable.
Figurez-vous qu'hier, une jeune femme de 27 ans a perdu les os dans un TER entre Pont-sur-Yonne et Sens. Elle a mis au monde son cinquième enfant. Ce qui est étonnant, c'est que ce n'était pas une première. Il y a 2 ans déjà, il lui est arrivé exactement la même chose, sur la même ligne et avec le même contrôleur. Il s'appelle Brice Lanvin et lui-même n'en revient toujours pas.
Au bout de quelques minutes, je lui dis « Mais excusez-moi, est-ce qu'il vous est déjà arrivé cette situation-là un jour ?» Et là, elle me dit « Bah oui, pour mon quatrième enfant, les pompiers étaient venus me chercher en gare de Montereau. » Et là, je lui dis « Bah écoutez, c'est bien ce qui me semble, je vous ai reconnu. En fait, le contrôleur... c'était déjà moi. J'ai expliqué la situation de la dame à la médecin du SAMU. Puis ensuite, je lui ai précisé que le quatrième enfant, elle avait perdu les os aussi dans le train. et que c'était moi déjà le contrôleur il y a 2 ans. Et là, donc, elle est restée pantois, et puis elle m'a dit, mais c'est pas possible, vous allez devenir parrain des deux.
Brice Lanvin, contrôleur et pompier volontaire dans Lyon, au micro RTL de Sébastien Rouxel. On termine en musique avec la mort d'une légende du reggae. Bunny Wailer, fondateur du groupe The Wailers avec Bob Marley. À eux deux, ils ont fait du reggae un phénomène mondial. Bunny Wailer avait 73 ans.
Oui, vous avez
réveillé
avec. On voit
avec du
reggae. C'était déjà quand j'avais 14 ans, ça me fatiguait. On va se retrouver à 8h40 pour la face cachée de la une, Isabelle.
Avec plaisir. On va parler des certificats de virginité. Ils vont être interdits, mais vous verrez, il y a bien d'autres façons de faire illusion.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Il est 7h36. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Dites-moi, P ou DG, il faut choisir.
Oui, le PDG, évidemment, c'était la star de l'entreprise. Et c'est un poste qui est de plus en plus compliqué à conserver. Vous allez comprendre que derrière tout cela, il y a une question essentielle. Quel contre-pouvoir pour un patron dans l'entreprise.
Et le dernier exemple a eu lieu chez Danone.
Il y a 2 jours.
A tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h38, Langlais Co avec vous François Langlais.
Bonjour à tous.
Danone, qui vend les célèbres yaourts et l'eau minérale d'Evian notamment, vient de décider de scinder en deux la direction de son entreprise.
Alors est-ce la fin des fameux PDG?
Oui.
Danone est en effet une entreprise de plus à avoir dissocié les fonctions de président et de directeur général qui seront attribuées à 2 personnes différentes. Elle le fait après le géant de la cosmétique L'Oréal, celui de la construction Bouygues ou encore le réassureur français Score et la moitié des grandes entreprises françaises. Il y a là une question essentielle, quel pouvoir pour un patron au sein de l'entreprise qu'il dirige et quel contre-pouvoir face à lui?
Alors, c'est d'autant plus que chez Danone, ce mouvement a été imposé en fait par une fronde des actionnaires.
C'est vrai. Ouais. Certains des actionnaires considèrent que la performance de Danone est insuffisante quand on la compare à ses concurrents, même en temps de pandémie. Ils veulent du sang neuf à la tête de l'entreprise. Le PDG actuel va donc faire de la place à un second à ses côtés. Dans les autres cas que je citais, il s'agit de succession paisible, je dirais. L'ancien reste président et le nouveau prend la direction générale. Mais c'est désormais la tendance en matière de management. Au président, le long terme, la stratégie. Au directeur général, les décisions quotidiennes, la gestion opérationnelle. Avec l'idée qu'à deux, les erreurs sont moins fréquentes parce que chacun des deux contrôle l'autre. Il s'agit d'éviter les dérives du pouvoir absolu.
Mais c'est un vrai risque.
Ah, écoutez, il est avéré. Et je dirais, c'est paradoxal, mais il est d'autant plus élevé que le patron est bon. Regardez Renault-Nissan. Oui. Carlos Ghosn a été un patron brillant et il a finalement emmené l'entreprise dans une voie périlleuse, celle du volume, pour devenir numéro 1 à tout prix. Une option qui a considérablement affaibli et Renault et Nissan. Personne ne l'a contredit. Au contraire, c'était la star mondiale. Il disposait d'un pouvoir absolu. Il y a 20 ans, il y a eu un patron mythique, Jack Welch, qui dirigeait General Electric, qui a fait à peu près la même chose. Lui aussi a dérapé. Et ça a coûté des milliards à l'entreprise.
En mettant 2 personnes, est-ce qu'on limite vraiment ce risque?
Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des modes. Aujourd'hui, l'heure est à la scission. Il y a 15 ans, on ne jurait au contraire que par le commandement unique qui permettait, disait-on, de faire face à la crise. 10 ans auparavant encore, il fallait dissocier. Vous voyez que ça change. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de système idéal. Quand ils sont 2, les patrons peuvent d'ailleurs se disputer. C'est ce qui est arrivé à Engie ou chez Sanofi. C'est catastrophique.
Alors, quelle est la solution?
Écoutez, un patron doit avoir du pouvoir. Faute de ça, il ne parvient à rien. Mais il lui faut aussi rendre des comptes. Les contre-pouvoirs peuvent venir de 3 endroits différents. Les clients, les salariés, les actionnaires, c'est-à-dire les propriétaires. Ouais. Chacun de ces 3 groupes d'intérêts se bat pour obtenir du patron le maximum. Les clients veulent des prix bas et la qualité, les salariés des salaires en hausse, et les actionnaires des dividendes et un cours de l'action solide.
Oui.
C'est normal, c'est même souhaitable que chacun de ces 3-là fasse entendre sa voix. Pour ça, il faut qu'il soit représenté au conseil d'administration de l'entreprise, et c'est à la direction d'arbitrer les conflits entre eux, non seulement sur le moment, mais en pensant au futur, à la pérennité de l'entreprise. Pas facile d'être un dirigeant qu'on soit tout seul ou à 2.
Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve aussi en podcast sur l'application mobile RTL. Il est 7h42. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Édouard Durand, juge des enfants à Bobigny. Il co-préside depuis 1 mois et demi maintenant la commission sur l'inceste après la démission d'Elisabeth Guigou.
A tout de suite avec votre invité.
RTL Matin
avec Yves Calvi.
RTL, il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le juge pour enfants, Édouard Durand. Il vient d'être nommé co-président de la commission sur l'inceste et les violences sexuelles.
Bonjour Édouard Durand.
Bonjour.
Et vous publiez aujourd'hui avec plusieurs experts « Violences sexuelles, en finir avec l'impunité », c'est aux éditions Dunod. Monsieur le juge, à la demande du président de la République, vous avez donc succédé à Elisabeth Guigou à la tête de la présidence de la commission sur l'inceste et les violences sexuelles. Elisabeth Guigou avait démissionné en raison de sa proximité avec Olivier Duhamel, accusé d'agression sexuelle dans le livre de sa belle-fille Camille Kouchner, « La Familia Grande ». Vous dites, Édouard Durand, que l'inceste est un crime à part. En quoi est-ce si différent ? En quoi est-ce si difficile pour un juge ?
Oui, l'inceste est un crime absolument spécifique. C'est d'abord une violence. Et comme toute violence, l'inceste a à voir avec le pouvoir et avec le corps. Toute violence est d'abord essentiellement une prise de pouvoir sur le corps de l'autre. Mais l'inceste est un crime sexuel spécifique qu'on appelle un crime généalogique en ce qu'il vient ôter à l'enfant sa place dans sa filiation, dans sa
dans
lignée familiale.
Oui.
Pour évoquer son livre « Une semaine de vacances », Christine Angot disait à propos de cet enfant victime de violences sexuelles incestueuses par son père, en venant à elle sexuellement, il se refuse à elle comme père.
Et en quoi est-ce si difficile pour un juge alors ? C'est ma deuxième question.
C'est difficile pour un juge et c'est difficile pour tout le monde, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la violence, ça fait peur. Et que penser la scène de crime sexuel incestueux, ça fait peur. C'est de l'ordre de l'impensable. Et ensuite, parce que l'agresseur, comme tous les agresseurs, a une stratégie dont l'une des premières étapes est d'imposer le silence. Et donc, il remplace l'interdit de la violence par l'interdit de parler. Et ce silence, il vient contaminer l'ensemble des protagonistes de la scène, y compris ceux qui sont chargés de la protection des enfants, et il est plus commode de ne pas voir que de voir.
Mais c'est ça, on se demande comment on va protéger un enfant dès lors que l'inceste est une affaire de huis clos familial, une affaire de secret, de lourd secret. Comment on peut protéger l'enfant ? Comment on peut faire sauter tout ça ?
Ce que vous venez de dire est extrêmement important. Et à mes yeux de juge des enfants, il est toujours essentiel d'arriver à voir que pour les humains, la maison doit être le lieu de la protection. Dehors, il peut arriver des tas de choses. Mais je vais rentrer chez moi et chez moi, je serai en sécurité. Et enfant, je serai protégé par mes parents. Et lorsque nous parlons de violence de l'intime, de violence sexuelle, de violence physique, de violence conjugale, d'inceste, la victime habite dans un lieu qui est le lieu du danger. Et c'est pourquoi il est absolument essentiel de remettre la loi à sa place pour que la maison soit le lieu de la protection et pour que l'enfant puisse reprendre normalement son développement.
Mais souvent, le premier réflexe d'un enfant, c'est de se taire. On parle de libérer la parole, mais Le réflexe de l'enfant, c'est de ne pas dire. Vous avez dit, monsieur le juge, que vous étiez face à une énigme. Je vous ai lu. Vous dites, si on dit « je suis venu au tribunal car j'étais dans le métro, on m'a volé mon portable », on me croit. Si vous êtes un enfant qui raconte « voilà ce qui s'est passé ce week-end à la maison » ou si vous êtes un adulte abusé pendant l'enfance qui témoigne, vous courez le risque de ne pas être cru.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui.
Moi, je pense que c'est vrai, malheureusement. Il y a quelque chose chez l'humain qui se refuse à penser le viol et le viol incestueux. Et donc, il faut faire un effort sur soi-même. Et pour que la société dans son ensemble puisse faire cet effort sur soi-même, il faut plusieurs choses. La première, c'est la loi comme construction sociale qui vient dire une exigence collective. La seconde, c'est de donner aux professionnels qui vont aller chercher la parole de l'enfant des outils pour agir. Parce que nous sommes légitimes à attendre des institutrices, des professeurs des écoles, des infirmières, qu'ils et elles viennent susciter la révélation des violences par l'enfant qui les subit. Encore faut-il leur donner les moyens pour agir.
Alors ça va être le travail de votre commission, mais je voudrais d'abord vous demander, en fait, dès lors qu'il s'agit d'un enfant ou des faits qui se sont passés dans l'enfance, ça génère du doute. Forcément, ça génère du doute.
Oui, ça génère du doute. Toute forme de violence génère du doute. Toute forme de violence de l'intime, je viens de le dire, et particulièrement les violences faites aux enfants. Sans doute est-ce lié à la façon dont nous avons construit la protection de l'enfance au fil des générations dans notre histoire. Vous savez que la protection de l'enfance, d'abord et le plus longtemps, et c'est ce qui nous constitue, a été pensée comme la protection exclusive des enfants sans parents, des enfants orphelins, des enfants vagabonds. Et il a fallu un temps très long pour arriver à penser la protection des enfants soumis à la puissance paternelle, les enfants dans la maison. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que nous avons pensé la déchéance de la puissance paternelle pour ces vices faits aux enfants.
Mais est-ce que vous dites, vous, juge pour enfants, les enfants ne mentent jamais ?
Oui, nous pouvons raisonner comme ça. Je peux aller à l'audience de cette façon.
Vous savez, on a des exemples où trop, l'affaire Iacono, où il y a eu des rétractations de témoignages d'enfants. Iacono, le petit-fils accusant son grand-père, faux témoignage.
Oui, je rappelle que tous les enfants victimes dans l'affaire d'Outreau ont été reconnus victimes de viol, hein, premièrement. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que nous savons que, un, ce qui est le plus puissant, ce sont les mécanismes de déni. Deux, que les violences sexuelles faites aux enfants, comme toutes les violences sexuelles, comme les violences conjugales, font l'effet d'une double sous-révélation. Il y a un nombre très réduit de dépôts de plaintes, et lorsque les victimes déposent plainte, elles disent moins que l'horreur du réel effectivement subi. Ensuite, que nous savons que les fausses dénonciations, les fausses allégations que l'on pense par un réflexe contre-intuitif massive sont en réalité très résiduel, et le savoir nous apporte cette connaissance. Et enfin, nous savons qu'un enfant qui révèle des violences, particulièrement qui révèle des violences à une personne qui représente la loi et qui perçoit dans son regard qu'il n'est pas cru, risque un effondrement psychique.
Alors, monsieur le juge Édouard Durand, 70% des plaintes pour agression sexuelle sur mineurs sont classées sans suite. Pourquoi ça n'aboutit pas ? 70%.
Eh bien, pour tous les éléments que vous venez de susciter par vos questions, et puis
mais
parce
vous,
que...
Comment vous allez faire pour que alors, ça aboutisse ?
Eh bien, d'abord, il faut souligner qu'il y a un travail du gouvernement pour modifier la loi pénale, et notamment ce qui va se rapporter aux éléments de preuve constitutifs des infractions d'agression sexuelle ou de viol, et c'est très important. Il faut avoir conscience que, en l'état actuel du droit, la loi exige des policiers, des gendarmes, des avocats, des magistrats, qu'ils rapportent des éléments de preuve, par exemple de contraintes, qui, dans un rapport asymétrique entre un adulte et un enfant, n'ont pas lieu d'être recherchés.
Mais ça veut dire que jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas joué le jeu. Si on en est là à 70% de plaintes...
Oui, ce qui compte, c'est d'arriver à construire un dispositif législatif qui prenne mieux en compte le rapport asymétrique entre l'adulte et l'enfant pour se représenter la scène et pour voir que le passage à l'acte sexuel de l'adulte sur l'enfant est une perversion du besoin affectif de l'enfant.
Il y a un autre sujet important, c'est la prescription. On est souvent face à des personnes qui racontent 20, 30 ans, 40 ans après les faits, alors que c'est prescrit. Là, que peut-on faire ?
Alors, vous savez que le débat sur la prescription est un débat complexe, qu'il a lieu en ce moment, que plusieurs arguments sont avancés dans un sens ou dans l'autre. Il faut penser le droit de la prescription s'agissant des violences sexuelles faites aux enfants dans l'économie générale du droit de la prescription. Ce qui me paraît très important, c'est d'arriver à penser que nous avons conçu l'idée de la prescription pour assurer, dit-on, ce que nous appelons la paix sociale. Et je voudrais dire que garantir l'application de la loi, garantir la mise en œuvre d'un procès pénal, a été pensé pour garantir la paix sociale. L'issue du procès est pensée comme une garantie de la paix sociale. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est quand je dis économie générale du droit de la prescription, c'est que nous avons construit la prescription en la rapportant à l'échelle des peines et donc des infractions, contraventions, délits et crimes. Et donc, on peut tout à fait arriver à aménager ce droit de la prescription pour mieux prendre en compte l'aspiration des victimes de violences sexuelles à ce que justice leur soit rendue dans l'économie générale de la prescription.
En dehors de la loi, monsieur le juge, on parle souvent de l'école. Est-ce qu'à l'école, il y a des outils spécifiques qu'on peut mettre en place ? Parce qu'on leur parle déjà de leur corps aux enfants, de ce qui est interdit, mais est-ce qu'on peut aller plus loin ?
Oui, sans aucun doute, et c'est un objectif du gouvernement, c'est un objectif aussi de la commission. Nos institutrices, nos professeurs des écoles, nos infirmières scolaires savent très bien que, et d'ailleurs c'est l'école qui produit le plus de signalements d'enfants en danger et d'informations préoccupantes. Ouais. Donc c'est le lieu où on repère, où on voit les enfants dans leur développement, dans leur comportement avec les autres enfants et avec les adultes. Mais si nous avons cette exigence à l'égard de nos enseignants, nous devons leur donner des outils et nous savons que lorsque un groupe d'enfants est amené à réfléchir et à parler du corps, de la maison, de la violence, de la loi, il y a toujours un, deux, trois enfants qui vont révéler des violences.
Une dernière question, est-ce que vous allez travailler avec Jean-Marc Sauvé qui préside, lui, la commission sur les abus sexuels dans l'Église ? Il a d'ailleurs rendu de premières indications hier. Le nombre de victimes pourrait s'élever à 10 000 et non 3 000, comme annoncé au départ. Il signe d'ailleurs, je crois, la postface de votre livre. Vous avez travaillé avec lui ?
Oui, bien sûr. J'en profite, Ernestine Ronet et moi remercions chaleureusement Jean-Marc Sauvé d'avoir bien voulu rédiger la postface de notre livre. Le travail que la commission qu'il préside a réalisé pour l'Église de France est absolument essentiel. 10 000 victimes de viol sur ces 70 années, évidemment c'est effarant et ça heurte nos consciences. Rappelons que nous sommes dans la société française à peu près 300 000 victimes de violences sexuelles chaque année, dont plus de la moitié sont des enfants. Il faut donc absolument renforcer notre culture de la protection.
Merci beaucoup, monsieur le juge.
Merci,
Edouard
madame.
Durand. Et je rappelle ce livre collectif, Violence sexuelle, en finir avec l'impunité, aux éditions Dunod.
L'inceste est un crime absolument spécifique, vient de nous dire Edouard Durand, car l'abus sexuel est une perversion du besoin de protection de l'enfant. Violence sexuelle est donc, en finir avec l'impunité, votre livre Edouard Durand, et on le rappelle une fois de plus, accessible aux éditions Dunod. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr et dans un instant, nous accueillons Cyprien Signy qui surfe avec les éléments de langage du gouvernement.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Signy.
7h57, vous surfez ce matin, Cyprien, avec ce que l'on appelle le champ lexical du gouvernement.
Eh oui, car hier, ici même, on parlait du président qui nous demandait de tenir, allez, encore 4 à 6 semaines, et puis...
This is CNN Breaking News.
Breaking News, parole de notre Premier ministre Jean Castex.
Jean Castex n'a pas mâché ses mots, les prochaines semaines seront difficiles.
Les semaines qui arrivent vont être difficiles.
Il a dit que les prochaines semaines vont être difficiles.
Ah bah tiens, des prochaines semaines difficiles, c'est original ça, ça nous change un peu. Non mais alors, difficile comment ? Parce que le 31 décembre déjà, il annonçait quoi le président pour ses vœux ?
Les premiers mois de l'année seront difficiles.
Voilà. Ah bah tiens, des premiers mois de l'année difficiles, on est en plein dedans là, mais alors... Avant, en novembre, c'était comment déjà en novembre ?
J'ai dit et je confirme que le mois de novembre sera difficile.
Ah bah déjà difficile, dites donc. Et alors en octobre ? Non mais juste pour voir comme ça, octobre. Mm-hmm.
Mes chers concitoyens, la situation est difficile.
Ah bah en octobre aussi, ça alors. Et puis pendant les vacances de Toussaint, c'était déjà difficile. Bon, heureusement qu'à la rentrée en septembre, on était un peu plus cool quand même.
La rentrée est difficile, mais ah ouais. Nous battons.
Non plus en fait. Bon après, on va pas se le cacher. En fait, ça fait un an que c'est difficile. D'ailleurs, Édouard Philippe, vous savez l'ancien Premier ministre, là, le grand qui est au Havre, ben, il y a presque un an donc, il nous annonçait déjà la couleur.
Le combat ne fait que commencer. Les 15 premiers jours d'avril seront difficiles, encore plus difficiles que les 15 jours qui viennent de s'écouler.
Et là, vous vous dites qu'en fait, depuis presque un an maintenant...
On tourne en rond,
c'est vrai. Mais non, en fait, parce qu'il n'y a pas que des prochains jours ou des prochaines semaines difficiles. Non, entre deux difficiles, on a aussi du...
Et les prochains jours seront décisifs.
Et oui, décisifs. Parce que quand c'est pas encore difficile, c'est décisif. Et alors, il y a ces variants, c'est comme avec le virus. Par exemple, il y a le variant genre variant Castex.
Les prochains jours seront déterminants.
Déterminants. Ou alors, il y a le variant Véran.
Et je le dis sans phare, les semaines devant nous, les prochaines semaines...
sont des semaines clés.
Et oui, la semaine clé. Oui, les amis, entre semaines difficiles et semaines décisives.
C'est la même chanson, mais la différence est qu'il y a AstraZeneca. Et tous les autres vaccins, et qu'avec un peu de chance, on finira bien par changer de disque.
On en peut plus. Nous remettez au tournant rond.
Au tournant rond, merde, au tournant rond, merde, au tournant rond, merde.
C'est un édito, ça.
C'est extraordinaire, mais c'est dans quel film?
C'est bon, Blié, c'est Blié qui dit ça, mais alors je ne sais plus.
C'est merveilleux, Bernard Blié.
Ben voilà, au moins on a rendu au comédien son talent. Bon, alors merci, on vous retrouve ce soir avec Thomas.
Ce soir, le monde de
demain. On n'aura pas en rond, non, mais ça, c'est sûr. Le grand blanc. Le grand blanc,
c'est
le grand
blanc.
Ah ben voilà, c'est le grand blanc. Avec Guy Raïdar,
la météo, Louis Baudin.
Oui, alors moi, avec un voile nuageux, c'est très drôle, avec un voile nuageux dans la plupart des régions, mais pas de précipitation, sauf dans le nord-ouest, où il y aura une petite perturbation, donc quelques pluies sur la Bretagne, la Normandie, puis durant la soirée sur le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, l'Île-de-France, encore une partie du Val-de-Loire. Ailleurs, donc, toute la journée, encore du temps sec, malgré ce voile nuageux plus épais, puis les températures toujours très douces, à moins de gelée ce matin, 14 à 17 degrés dans la moitié nord cet après-midi, et près de la Méditerranée, et 17 à 19 degrés même de l'Aquitaine aux Alpes.
Merci beaucoup Louis Bonnet. RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et à la une, ce virus décidément insaisissable.
Les contaminations sont en baisse dans des zones où les variants sont pourtant majoritaires. Vous n'y comprenez plus rien, les épidémiologistes non plus. Les contagions au sein du 15 de France, Fabien Galthié dédouané par l'enquête de la Fédération Française de Rugby, c'est une info RTL. Et puis, poubelle la vie à Paris avec le beau temps et la vente à emporter. Les éboueurs sont débordés.
30 sacs en carton, c'est pas trop. De tous les fast-foods, quoi. C'était pas comme ça du tout avant, parce que les gens, ils mangeaient à l'intérieur avant le Covid.
RTL Matin.
Mais d'abord, cette incroyable histoire aux États-Unis. Au départ, une amitié, comme il en existe partout dans le monde, entre deux jeunes femmes. Elles s'entendent, se découvrent plein de points communs avant de s'apercevoir, Lionel Gendron, qu'elles sont sœurs.
Oui, quand Julia et Cassandra sont embauchées dans le même restaurant, elles ont d'abord un coup de foudre amical. Elles ont les mêmes goûts, des passions communes, et puis leurs histoires convergent. Adoptées, élevées par une mère célibataire. Curieux, elles ont même toutes les deux un tatouage de la République dominicaine où elles sont nées. Elles ne se quittent plus. Vous êtes peut-être sœurs, leur disent des amis. Mais les papiers d'adoption prouvent le contraire. Pour Cassandra, l'aînée de 17 mois, c'est juste une belle complicité, même si elle jouait de ses similitudes.
On a commencé à agir comme des jumelles, on portait les mêmes vêtements, on a acheté des t-shirts. Je suis la grande sœur, je suis la petite sœur.
Mais qu'elle se trouve employée dans le même restaurant du Connecticut, ce serait un hasard incroyable. Pour lever les doutes, elles font tout de même un test ADN et le résultat est renversant. Ça match.
Je suis sa famille, je suis sa sœur, même mère, même père.
Il y avait en fait une erreur sur les papiers d'adoption. Le coup de foudre de Julia et Cassandra était en fait une attraction par les liens du sang.
Incroyable histoire racontée pour nous par Lionel Gendron aux États-Unis.
En France, les épidémiologistes sont dans le brouillard.
Difficile, décidément, d'y voir clair et de comprendre ce virus qui semble déjouer tous les pronostics. D'abord, à l'heure où l'on part, nous sommes le 3 mars. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour.
Et la flambée tant redoutée n'est toujours pas là.
Et non, les épidémiologistes l'avaient annoncé pour mi-février. Il y a bien eu une hausse, mais 2 à 3 fois moins forte que prévu, qui s'est accélérée il y a une semaine, puis qui a ralenti. Les prévisions se basaient sur ce qui s'est passé au Royaume-Uni à l'automne avec le nouveau variant, où là-bas il y a eu une vraie flambée. Est-ce la météo ou surtout les mesures prises en France? En Grande-Bretagne, les bars, les pubs ont été fermés très tard, alors que le variant représentait déjà 60% des cas. Il n'y a pas d'explication précise.
Alors, il y aura un nouveau conseil de défense sanitaire tout à l'heure à l'Élysée, à quoi peut-on s'attendre? Alors,
quand on regarde les chiffres dans les 20 départements sous surveillance, c'est un vrai casse-tête. Il y en a où la situation s'améliore. La Moselle, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, elles semblent se stabiliser dans la Drôme et le Rhône, mais les cas augmentent dans les Hauts-de-France et toute l'Île-de-France. Il y a même des nouveaux départements qui inquiètent, l'Aube, les Alpes-de-Haute-Provence ou les Hautes-Alpes. Donc, des situations très disparates dans des départements parfois voisins. Les mesures risquent de l'être aussi.
Merci beaucoup Virginie Garin. On en avait fait trop vite un coupable, visiblement le sélectionneur du 15 de France. Fabien Galthié n'est pas responsable de la contagion qui a frappé son groupe. On sait qu'il avait pourtant pris des libertés avec la bulle sanitaire. Il était sorti pour voir son fils qui jouait dans un match. L'enquête interne de la Fédération française de rugby le dédouane. Le président de la commission médicale, Roger Salama.
Il est parfaitement clair que ce qu'il a fait, quoi qu'on puisse en penser, il avait le droit de le faire et qu'il n'y avait aucun risque particulier. Je ne dis pas ça pour le défendre, il n'a pas besoin d'être défendu, je dis ça parce que c'est la vérité.
Bonjour Jean-Michel Rascol.
Bonjour.
Le rapport qui sera remis tout à l'heure à la ministre des Sports met en cause un joueur de l'équipe à 7, mais pour Galtier, c'est donc circulé, il n'y a rien à voir. Elle est objective, cette enquête, Jean-Michel ?
Écoutez, difficile de répondre. C'est un document présenté par la Fédération qui juge des faits qui ont touché le 15 de France, ce qui peut laisser libre cours à toutes les interprétations. Il faut quand même dire que cette enquête a été demandée par la ministre à Bernard Laporte, qui naturellement s'est tournée vers sa commission médicale. Cette commission est composée de 6 médecins, dont Roger Salamon et Éric Combe, qui sont des personnalités de haut rang. Éric Combe est le chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Des médecins qui ont identifier un joueur de l'équipe de France de rugby à 7 comme le patient zéro. Il était au contact de l'équipe en tant que partenaire. Son test PCR était négatif, mais il était en période d'incubation. Cela ne veut pas dire que Fabien Galtier, en quittant le groupe, peut-être à plusieurs reprises, n'a pas été imprudent. Il a même une responsabilité morale que le président Laporte n'a pas manqué de lui rappeler. Roxana Maracineanu se contentera-t-elle de ses conclusions ? La balle ovale est dans son camp. La commission médicale, elle, se réunit à nouveau ce matin pour proposer un protocole plus strict dans la perspective d'Angleterre-France. Un succès à Twickenham la semaine prochaine vaudrait bien davantage que toute cette littérature.
Merci Jean-Michel Rascol. De la balle ovale au ballon rond au Brésil, la légende du foot Pelé a été vaccinée un jour inoubliable, écrit le triple champion du monde de 80 ans sur son compte Instagram, où il pose le pouce levé. Le Brésil qui vient d'enregistrer un nombre record de décès liés au Covid, plus de 1600 en une seule journée.
RTL 8h05, Emmanuel Macron fait un nouveau geste d'apaisement en direction de l'Algérie.
Au nom de la France, il reconnaît que le militant nationaliste Ali Boumendjel a été torturé et assassiné par l'armée française pendant la guerre d'Algérie en 1957. Le crime avait été maquillé en suicide. Une reconnaissance officielle 20 ans après les aveux de l'ancien responsable des services de renseignement Alger, Paul Ossarès. Écoutez, c'était en 2001 sur la chaîne Histoire.
Boumendjel, c'est moi qui l'ai fait exécuter. Et il est au rez-de-chaussée de l'immeuble. Bon, il ne peut pas sauter par la fenêtre du rez-de-chaussée, ce serait idiot. Mais dans l'autre immeuble, mais il y a 9 étages. Et il y a une passerelle qui les sépare et qui saute de l'autre immeuble. Bien, mon commandant. Et ça s'est passé comme ça.
Ça s'est passé comme ça. Paul Ossarès sur la chaîne Histoire en 2001. La veuve d'Ali Boumendjel n'aura jamais connu cette reconnaissance officielle de la France puisqu'elle est décédée il y a 6 mois.
Dans un instant, les poubelles qui débordent à Paris. On vous explique tout ça. Restez avec nous.
RTL Matin.
8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. Si vous êtes à Paris, vous l'avez peut-être remarqué ces derniers temps, les poubelles débordent.
Oui, avec le beau temps, les Parisiens privés de restaurants mangent encore plus dehors. Les éboueurs sont débordés, la mairie a même dû envoyer des renforts. Nerissa Emani.
Oui, sur une place bordée de fast-food, Ludovic pousse un petit chariot poubelle et slalom entre les centaines de Parisiens qui déjeunent sur les bancs.
Alors là, on arrive devant une poubelle qui s'appelle le Big Belly. C'est hyper, hyper, méga chargé. 30 sacs en carton, c'est pas trop, de tous les fast-foods quoi. Donc là, il faut pas regarder et on y va.
Depuis le retour des beaux jours, les 33 000 poubelles de la ville se remplissent très vite. Ludovic et Lassad font partie de l'équipe de renfort envoyée spécialement par la mairie.
C'était pas comme ça du tout avant, parce que les gens ils mangeaient à l'intérieur avant le Covid.
On a des doubles travail maintenant. Il faut que j'ai fait au moins 5 à 6 tours dans les mêmes coins, comme ça, ça reste propre. D'habitude, tu fais des tours et c'est bon.
Et ça, c'est sans compter sur ceux qui ne font même pas l'effort d'aller jusqu'à la poubelle, comme ce Parisien.
C'est vrai que ça reste sale. Hein. De manière générale, on essaie de les mettre dans les poubelles. Hein. Même les mégots de cigarettes, j'essaie de les mettre dans les poubelles. Mais c'est vrai que là, du fait qu'il faille toucher la poubelle, on évite. Enfin je pense, hein, c'est dû à ça.
Et au-delà des déchets alimentaires, les éboueurs déplorent le nombre croissant de masques jetés au sol.
Reportage signé Nerissa Emani. La contre-attaque médiatique de Nicolas Sarkozy dans le Figaro. L'ancien président condamné à 1 an ferme pour corruption et trafic d'influence dénonce une injustice profonde. Il envisage de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne peux accepter d'avoir été condamné pour ce que je n'ai pas fait. Génération identitaire vit ses dernières heures. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, présente aujourd'hui en Conseil des ministres le décret actant la dissolution du groupuscule d'extrême droite.
8h10, la réforme de l'assurance chômage sur les rails.
dire.
Mais à un rythme d'escargot. Le sujet est explosif. Le gouvernement a dévoilé son calendrier. Pas question de brusquer les partenaires sociaux, Éric Vanier.
Compte tenu de la situation économique et sanitaire toujours très tendue, le gouvernement va avancer piano, piano. Pas de Big Bang. Il va attendre le 1er juillet pour commencer à appliquer partiellement et progressivement sa réforme. S'agissant par exemple du durcissement des conditions d'accès à des indemnités chômage, il ne se passera rien tant que le marché du travail ne se sera pas redressé. Le temps de constater cette amélioration de l'emploi, ça veut dire que rien ne changera à minima avant la Toussaint. Idem pour la taxation des contrats courts, il y aura d'abord une longue période d'observation des entreprises qui, dans les faits, ne paieront rien au plus tôt avant septembre 2022. Des garde-fous ont aussi été prévus. La création, par exemple, d'un plancher en dessous duquel les indemnités de chômage ne pourront pas descendre pour que le nouveau mode de calcul ne se traduise pas par un effondrement des allocations. Et s'agissant de la dégressivité, quand l'indemnisation est élevée, la baisse de 30% ne s'appliquera pas au bout de 7 mois de chômage, mais de 9 mois, tant que la conjoncture ne se sera pas améliorée.
Éric Vanier.
L'histoire du jour, pour terminer.
1300 euros pour un yaourt. Imaginez la surprise de cette femme en Chine qui avait commandé un iPhone 12 Pro Max. Lorsqu'elle a ouvert le colis, il y avait un yaourt à la pomme en lieu et place du smartphone, c'est vrai. Le coupable a été identifié, c'était un intérimaire qui a reconnu avoir volé l'appareil lors de l'emballage de la pomme pour un appareil Apple. En tout cas, il ne manque pas d'humour.
Merci. Pardonnez-moi. Merci beaucoup, c'était le journal de Jérôme Florin.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
Il est 8h12, nous allons retrouver avec grand plaisir Jean-Mathieu Pernin et ses fake news. Bonjour cher Jean-Mathieu.
Bonjour.
Alors, écoutez...
Oh, ça va être bien aujourd'hui, vous allez voir. Vous allez voir. On va parler de l'OMS un petit peu.
Ah, très bien.
Vous savez, l'OMS, à un moment, parce que l'OMS aurait déclaré que la pandémie ne se finirait jamais. Alors Yves, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
C'est une bonne question.
Eh bien justement,
je vous la pose.
Et voilà, et j'ai envie d'y répondre, figurez-vous. Puisque d'un coup, ce n'est pas, c'est vrai, le message le plus optimiste qui soit. Hein, mais haut les cœurs, ceci n'est pas exactement ce qu'a déclaré l'Organisation mondiale de la santé. Lundi, le docteur Michael Ryan, directeur des opérations d'urgence de l'OMS, déclare « Il serait très prématuré et je pense irréaliste de penser que nous allons en finir avec ce virus d'ici la fin de l'année. » Alors coup de bambou, soudain on voit éclore sur les réseaux sociaux des messages disant que l'on vivra avec le Covid pour toujours. D'autres en profitent pour nous dire que les masques comme la vaccination, ça sert à rien puisqu'on n'est pas prêt d'en finir. Bref, chacun prend ce qu'il veut dans cette déclaration car comme l'explique le docteur Martin Blachier au Figaro, éradiquer totalement le virus du Covid. N'y songeons même pas, c'est infaisable, car il ne faut pas confondre épidémie et conséquences mortelles de l'épidémie. La chose est subtile mais précise.
Certes oui, car pour cela, il faut lire la déclaration de l'OMS dans son entièreté.
Et oui, comme souvent, hein, c'est bien d'aller jusqu'au point final de la phrase. Le docteur Michael Ryan déclare bien en conférence de presse que nous n'en finirons pas avec le virus d'ici la fin de l'année, mais, continue-t-il, je pense que ce avec quoi nous pouvons en finir, si nous sommes intelligents, ce sont les hospitalisations, les morts et la tragédie associée à cette pandémie. Par cette déclaration, il faut comprendre que le virus peut rester, mais que nous pouvons en terminer avec sa phase épidémique, notamment grâce à la vaccination. Les populations les plus fragiles pourraient être protégées, les hospitalisations alors seraient alors moins fortes. On parle alors d'un virus circulant à bas bruit. Pour l'OMS, afin d'atteindre cet objectif, un triptyque de mesures doit être mis en place. Vacciner les personnels de santé, prévenir l'apparition des variants et réduire le nombre de personnes contaminées. Donc l'OMS ne nous a pas condamné à une damnation éternelle, mais reste prudent.
Encore faut-il que les personnels de santé acceptent de se faire vacciner. Hein. Alors, l'Organisation mondiale de la santé qui a déjà évoqué le fait que la pandémie mettrait du temps à s'éteindre.
Oui, le 21 août dernier, le directeur de l'OMS déclarait en conférence de presse « Nous espérons en terminer avec cette pandémie en moins de 2 ans. Je pense que nous pouvons y mettre un terme dans un délai plus court que la grippe de 1918. 2 années avaient été nécessaires en effet pour éradiquer la grippe espagnole en 1918. Aujourd'hui, la technologie est plus avancée, donc ce virus pourrait être plus rapide à vaincre. Et pour ne pas désespérer, lisons les phrases jusqu'au bout, c'est un bon antidépresseur.
Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin. À demain matin.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 8h15, alors allons-nous pouvoir sortir ce week-end? Faut-il interdire les rassemblements dehors, dans les parcs par exemple, ou sur les quais pour éviter qu'il n'y ait trop de monde? On connaîtra les nouvelles règles demain pour lutter contre l'épidémie, mais y a-t-il un vrai risque à se retrouver dehors? C'est une question qu'on se pose tous. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour Yves, bonjour à
vous
tous.
Vous êtes notre brigadier en chef, on va distinguer le vrai du faux ce matin. Il n'y a pas de cluster en extérieur, est-ce vrai ou faux Sophie?
Vrai, aucun des spécialistes que j'ai interrogés n'a vu d'études sérieuses scientifiques qui montrent que des clusters sont nés à l'extérieur. On se souvient de la fête de la musique, par exemple, en dernier, qui avait fait peur à tout le monde. Pas de foyer de contamination ensuite. Même chose pour des manifestations. Donc, c'est vrai, pas de cluster connu à l'extérieur.
Donc, ça veut dire que ça n'est pas dangereux de se retrouver dehors avec des amis pour pique-niquer ou boire un coup. C'est vrai ou faux, ça ?
Faux. Le risque est réel. Si vous êtes à moins de 2 mètres les uns des autres, sans masque et que vous êtes malade, vous pouvez transmettre le virus par les postillons, les gouttelettes que vous envoyez en parlant, en riant et bien sûr en éternuant et en toussant. Alors, 2 mètres, c'est beaucoup. Je suis venue avec mon petit maître ce matin. Voilà. 2 mètres, c'est être loin les uns des autres. C'est pas naturel. Regardez, on essaye de mettre. Voilà. Évidemment, on ne se sent pas les bras, on ne se touche pas les mains. C'est beaucoup plus loin.
On a exactement la distance en studio.
Donc,
en fait,
quand on est à 5 ou 6 debout à parler, naturellement, on se rapproche les uns des autres. C'est presque naturel. Donc, faites le test. Quand vous êtes autour d'un manche debout, par exemple, à boire un verre, eh bien, on est à 40-50 cm. Donc, évidemment, on prend un risque important. Donc, quand on déjeune autour d'une table dehors, quand on est deux, on prend une table de 8. Et quand on pique-nique, on simule ces 2 mètres, voilà, soit avec 2 grandes enjambées, soit avec un propre mètre, si vous y pensez. Tracez ce cercle de 2 mètres et respectez-le. Et je vous assure, quand on est debout, c'est naturel de se rapprocher. Il faut être très prudent.
Cela veut dire qu'une foule compacte qui prend le soleil sur les bords de la Seine ou de la Garonne est un lieu de risque. Alors là aussi, vrai ou faux ?
Vrai, sauf si les 2 mètres sont respectés. Hein. Bah c'est compliqué quand il y a beaucoup de monde, sauf si tout le monde porte le masque, bien sûr. C'est compliqué quand on mange. Donc même s'il n'y a pas d'études scientifiques sur des clusters à l'extérieur, le risque de contamination existe quand même.
Et alors donc, il faut porter le masque tout le temps.
Ça, c'est vrai. Voilà. Bah, oui. Plus on met le masque, moins on l'oublie, résume Olivier Véran, par exemple.
Il vaut mieux avoir des amis ou sa famille dehors que dedans. Vrai ou faux ?
Vrai, il y a moins de risques à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais attention, il faut le répéter, danger quand même si vous ne respectez pas les distances.
Alors, une dernière question. À l'extérieur, il y a un risque de contamination par aérosol ou par les surfaces dehors, vrai ou faux ?
Alors, c'est faux. Entre les UV, l'humidité, le vent, le virus est très vite abîmé sur les surfaces à l'air libre. Je parle pas bien de dehors. Et sur les aérosols, on le voit avec la cigarette, par exemple, fumer dehors n'est pas dangereux pour les autres. Ça reste dangereux pour soi, mais c'est pas dangereux pour les autres. C'est la même chose pour les aérosols du virus.
Un tout dernier point. Les maires ou les préfets ont-ils raison d'interdire les rassemblements dehors ? Vrai ou faux ?
Faux si la foule n'est pas trop compacte et porte le masque en permanence. Vrai s'il y a trop de monde.
Merci beaucoup Sophie Orange. On retrouve la brigade dès demain. Oui, rangez votre maître. 4h30 dans le petit matin avec Julien Cellier et Marina Giraudeau. Dans un instant, Michel Simès va nous expliquer ce qu'est le test de souffle, à quoi il sert exactement. On respire, on se détend et on est bien sur RTL. Restez avec nous. Bonne journée à tous.
RTL. Passez une bonne journée sur RTL. RTL, toujours avec vous. RTL Matin. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Alors ce matin, vous nous proposez d'évaluer les performances de nos poumons. J'ai bien dit de nos poumons. Encore un autotest, mais cette fois, il permet de mesurer notre souffle.
Oui, c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement à la maison. En mesurant votre souffle, vous évaluez votre capacité respiratoire. Et ça peut constituer un indice si vous êtes sur la mauvaise pente, celle qui mène lentement mais sûrement et sans toujours qu'on s'en rende compte vers une maladie respiratoire. Avec ces choses-là, plus tôt on est prévenu, mieux c'est.
Bon, alors ce genre de test s'adresse-t-il à tout le monde ?
Potentiellement oui, après il y a quand même des profils plus indiqués que d'autres. Si vous fumez, si vous avez tendance à tousser ou à cracher, surtout si ça vous prend au réveil, je vous conseille de faire ce test. De même, si la perspective de monter 3 étages à pied vous fait halter par avance, vous êtes le cœur de cible. Okay. D'une manière générale, tout sportif amateur qui constate que son endurance diminue a le droit de se poser des questions.
D'accord. Si on se pose des questions, quelles réponses nous apportez-vous ?
Eh bien, vous allez à la pharmacie, vous achetez un débimètre. Ça vous coûtera une vingtaine d'euros. Le débimètre, c'est les asthmatiques connaissent. Ça se présente sous la forme d'un tube. Il est équipé d'un embout. Vous devez souffler dedans une seule expiration, mais la plus longue possible. Le résultat vous donne ce qu'on appelle votre DEP. DEP comme débit expiratoire de pointe.
Et il doit être de combien ce débit expiratoire de pointe ?
Tout dépend si vous êtes un homme ou une femme. Les hommes ont en général une capacité respiratoire supérieure de 20% à celle des femmes. Quant aux chiffres, je vous les donne. Chez la femme, le DEP oscille en moyenne entre 400 et 550. Chez l'homme, la fourchette se situe entre 500 et 650. Si vous n'êtes pas dans les clous, c'est peut-être l'occasion de vous intéresser un peu plus à vos poumons.
Mes poumons.
Voilà. Remarquez, si vous ne voulez pas passer par la case pharmacie, il y a encore plus simple. J'ai deux petits tests à vous proposer.
Ah, très bien.
Le premier consiste à prendre la plus longue des inspirations par le nez, puis à expirer lentement par la bouche. Prenez votre temps. Vous devez sentir votre ventre se creuser et se creuser encore. Si vous parvenez à faire durer cette expiration lente plus de 20 secondes, c'est une bonne nouvelle. Sinon, ce peut être le signe d'un problème.
Ah bon ?
Autre exercice qui se passe dans l'escalier, cette fois. Grimpez 30 marches sans faire de pause. Faites-le rapidement. À l'arrivée, deux possibilités. Soit vous n'êtes pas essoufflé, là je dis bravo.
Bah oui.
Soit il vous faut 5 minutes pour renouer avec votre respiration normale, et là je dis attention.
En fait, si on échoue à l'un de ces tests, il est temps de bouger un peu, quoi.
Oui, si vous échouez aux deux tests, vous êtes bon pour un rendez-vous chez le médecin parce que vous manquez de souffle et il va falloir réagir.
Merci beaucoup, Michel, et à demain.
À demain.
Dans un instant, nous avons rendez-vous avec l'économiste Nicolas Bouzou qui publie demain une passionnante histoire qui nous projette dans l'avenir de la santé. Des progrès exceptionnels sont en cours, dont le vaccin ARN n'est qu'une des étapes. Bref, une vraie bouffée d'espoir et d'esprit positif qui nous projette dans l'avenir. À tout de suite, le livre est intitulé « Homo Sanitas, histoire et avenir de la santé ». Il est publié aux éditions IXO. À tout de suite avec Nicolas Bouzou.
RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi.
Il est 8h24, bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. On connaît l'économiste, mais vous êtes depuis toujours un passionné des questions de santé. Et vous publiez demain « Homo Sanitas, histoire et avenir de la santé », votre tout dernier livre aux éditions IXO. En deux mots, pourquoi ce titre et que signifie-t-il ?
Ça signifie que depuis 400 000 ans, en réalité... l'homme agit pour améliorer sa santé. Alors pourquoi 400 000 ans ? C'est la domestication du feu. Ben à partir du moment oui. où on a domestiqué le feu, on l'utilise comme outil pour trouver de meilleures plantes. Des meilleures plantes, ça peut être des meilleures plantes pour soigner son estomac, par exemple, ou ça peut être des analgésiques. On a retrouvé des traces de soins dentaires il y a plus de 10 000 ans. Et donc l'homme, l'humain, est un homo famer, c'est-à-dire quelqu'un qui fait, mais c'est aussi quelqu'un qui soigne. Et en réalité, si j'ai voulu mettre l'accent là-dessus et en faire le titre, c'est parce que j'entends parfois cette idée selon laquelle on vit à une époque un peu hypochondriaque, oui. on en fait trop avec le virus. Et en fait, c'est complètement faux. L'humain a toujours essayé d'améliorer sa santé, non pas pour améliorer sa santé, mais pour faire des choses.
Voyez. Alors, vous nous montrez aussi qu'il y a eu des périodes historiquement plus hygiénistes que la nôtre. Hein,
ah mais complètement. Le 19e siècle, voilà. par exemple, est une période où on est absolument obsédé par la santé. Et donc c'est le moment, à la fin du 19e siècle, à partir de laquelle on comprend ce que sont les microbes, c'est-à-dire les virus et les bactéries. Et en ayant compris ça, on refait toutes les villes. Enfin, je veux dire, Marseille, Lyon, Paris, l'urbanisme, il a été construit sur le fait de vouloir justement éviter la transmission des virus, les réseaux d'eau courante, le chauffage, etc. Donc c'est beaucoup plus hygiéniste qu'aujourd'hui.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous remontez notre histoire, mais c'est pour nous projeter dans l'avenir. Avec ce goût particulier que vous avez pour l'innovation, on va connaître des bouleversements qui sont porteurs d'espoir exceptionnels, Nicolas Bouzou. Oui. Disons-le, on est en période de pandémie, mais franchement, votre livre est une projection positive dans l'avenir et dans l'avenir de la santé.
Ouais, regardez ce qui se passe, par exemple, dans le domaine de la cancérologie. On assiste depuis plusieurs années à une révolution thérapeutique absolument majeure, qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec ce que l'on voit aujourd'hui sur la crise du Covid et notamment les vaccins ARN messagers. La grande révolution aujourd'hui en cancérologie, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie. Quand on soignait un cancer depuis la nuit des temps, pour ainsi dire, on combattait la tumeur. Aujourd'hui, avec l'immunothérapie, on agit sur le système immunitaire qui lui-même va tenter d'éliminer la tumeur. Oui. Alors, il faut être clair, ça marche pas pour tout le monde aujourd'hui, mais les gens pour lesquels ça marche, c'est d'une efficacité incroyable et des maladies qui étaient extrêmement graves, qui étaient sans solution, disons-le, il y a 3 ou 4 ans. Des mélanomes métastasés, des cancers du poumon, eh bien aujourd'hui, on arrive à en soigner complètement. Et ça, vous voyez, ça me passionne. Moi, j'ai une formation d'économiste, oui. bien évidemment. Mais ça me passionne parce que c'est l'innovation, c'est la croissance économique qui rend ça possible. Et en plus, ça génère de l'activité, ça génère de la croissance économique.
Et alors, vous expliquez qu'on a en fait une convergence numérique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, des biotechnologies. C'est hallucinant.
Enfin. Oui, parce que en fait, ces technologies dites de la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire en effet le numérique, l'intelligence artificielle, les imprimantes 3D, les robots, les biotechnologies, les nanotechnologies, bah, tout ceci converge pour apporter des innovations qui permettent de faire des progrès en santé qui sont absolument extraordinaires. Les vaccins ARN messager, oui. c'est ça. En réalité, c'est moins de la chimie que du numérique. On a pu faire des vaccins ARN messager qui, je le rappelle, sont les vaccins les plus fiables et les plus sûrs de toute l'histoire des vaccins. On a pu les faire parce qu'on a séquencé très rapidement. Il y a plus d'un an, en réalité, oui. on a séquencé le génome de ce virus lié à la qui déclenche la Covid-19. Et c'est ça ce qui nous a permis de faire ces vaccins. Et vous voyez que jamais dans l'histoire de l'humanité, face à une pandémie aussi grave, on avait eu un vaccin, une solution au fond aussi efficace. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'agace beaucoup depuis quelques semaines quand je vois la lenteur de la vaccination française. Pourquoi ça m'agace ? Parce qu'on a une solution, parce qu'on va y mettre fin à cette épidémie et parce que je veux pour mon pays qu'on y mette fin le plus vite possible. Mais ce que vous voyez aujourd'hui avec l'ARN messager, on parle essentiellement de la Covid-19, on a raison, mais en réalité, on le voit dans un très grand nombre de pathologies.
Donnez-nous des exemples.
Bah, par exemple, la malaria, qui est une maladie extrêmement grave, notamment dans les pays en voie de développement. Aujourd'hui, c'est une maladie qui commence à faire l'objet de traitements qui sont des traitements très efficaces et qui vont changer la vie d'enfants qui, par exemple, ne pouvaient pas aller à l'école et qui vont pouvoir aller à l'école. Puis un sujet sur lequel, et ça, ça nous concerne, nous, dans les pays développés, sur lequel on commence, c'est le début, hein, on commence à faire des progrès, ce sont les maladies neurodégénératives. Les maladies du cerveau.
Il y a des vrais espoirs.
Oui, bien sûr, il y a des vrais espoirs. C'est le début. Là où on fait énormément de progrès aujourd'hui, c'est sur le cancer. Tant mieux, parce que le cancer, c'est la deuxième cause de mortalité dans les pays développés. Première cause, c'est les maladies cardiaques, sur lesquelles on fait aussi d'ailleurs beaucoup de progrès. Oui. Deuxième cause, c'est le cancer. Quand on aura, je vais être un peu provocateur, mais régler les maladies cardiaques et régler son compte au cancer, ce qui va arriver, hein, pas tout de suite, mais ça va arriver dans 15-20 ans, eh bien, on vivra beaucoup plus vieux et donc on aura une explosion des maladies neurodégénératives. Et donc on commence à préparer ce coup d'après. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne le progrès en santé.
Mais justement, aux passionnés, on va dire, d'innovation qu'on entend, je repose une question d'économiste. On comprend en vous lisant qu'il y a des outils extraordinaires qui sont en cours de progression encore et que ça dépasse même ce que l'on peut imaginer d'une certaine façon. En revanche, tout cela va coûter très cher, Nicolas Bouzou. Comment va-t-on le financer?
Oui, mais c'est un bon investissement. Alors là encore, je vais revenir à une problématique actuelle. Une dose de vaccin ARN messager, si vous prenez les plus chers, c'est 30 euros. Mais le coût de la crise pour l'économie justifierait en réalité, je ne veux pas donner de mauvaises idées aux laboratoires pharmaceutiques, mais des doses dont le prix pourrait monter à 500 euros. Si vous achetez une dose 500 euros, la crise économique est tellement grave, la crise économique liée à la pandémie est tellement grave que ça resterait rentable. Ce que je veux dire par là, c'est que les 2 milliards qu'on va consacrer cette année aux achats de vaccins, mais leur rentabilité pour l'économie, elle est colossale. Ça va nous rapporter en réalité beaucoup plus que 2 milliards. L'investissement en santé, il est bon. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Je suis quelqu'un de très rigoureux en matière de dépenses publiques. Mais investir dans la santé, c'est investir en réalité pour l'économie. Quand vous soignez, on voit aujourd'hui des progrès extraordinaires dans les maladies rares, ce qu'on appelle les maladies orphelines. Ce sont des gens très jeunes qui sont touchés par ça. Quand vous les soignez, ça peut coûter très cher, mais cette personne jeune qu'on soigne, elle va travailler, elle va consommer, elle va investir. Et donc, en réalité, économiquement, c'est bon pour la société tout entière.
Nous sommes français, et donc il y a une question de fond. La santé, c'est une affaire publique ou un dossier pour milliardaires et pour entreprises privées?
Alors, en fait, c'est les deux. Ça commence aujourd'hui beaucoup par l'innovation dans des entreprises qui sont détenues justement par des milliardaires. Il est clair que des entreprises comme Apple, des entreprises comme Amazon, les entreprises d'Elon Musk, notamment une entreprise qui s'appelle Neuralink, investissent énormément dans le domaine de la santé parce que ce sont des entreprises qui sont à la frontière technologique et qui utilisent ces technologies pour investir et pour tenter de faire des progrès absolument extraordinaires en matière de santé. Mais c'est pas grave.
Et les Chinois là-dedans?
Alors les Chinois font des progrès absolument incroyables. Regardez, quand vous allez en Chine, vous utilisez peut-être une messagerie qui s'appelle WeChat. WeChat, c'est l'équivalent des SMS, au fond, hein, pour schématiser, est détenu par une entreprise du numérique qui s'appelle Tencent. Eh bien, cette entreprise du numérique, Tencent, elle est en train d'ouvrir des hôpitaux en Chine, parce qu'elle a racheté les meilleures boîtes d'intelligence artificielle, de robotique, elle recrute les meilleurs chirurgiens, les meilleurs médecins.
On aura des labos Google, Amazon, enfin les labos des GAFA. Dans son dernier livre, Jacques Attali explique que nous serons obligés d'entrer en conflit avec les GAFA.
Oui, je pense que ce que dit Jacques Attali est tout à fait juste, mais il faut faire du judo avec ces entreprises. La question, moi je m'en moque, si vous voulez, qu'un vaccin contre la Covid-19 il soit trouvé par une entreprise qui appartient à un milliardaire.
Ce qui compte, c'est qu'on le trouve.
Ce qui compte, c'est qu'on le trouve
et
c'est surtout ça, qu'on y accède. Et en fait, pour qu'il y ait des progrès en santé, il faut de l'innovation, mais il faut aussi une grosse industrie, comme on n'aime pas en France, une grosse industrie qui gagne plein d'argent pour produire énormément et pour distribuer. Et puis, il faut bien évidemment un État-providence qui permette à tout le monde, à vous et moi, à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin, d'accéder aux traitements dont ils ont besoin.
Ça s'appelle la sécurité sociale.
Absolument.
Merci beaucoup, Nicolas Bouzou.
Merci.
Votre passion est toujours contagieuse et votre nouveau livre, Homo Sanitas, Histoire et Avenir de la Santé, sort demain. Je le rappelle, aux éditions XO. Bonne journée à
Merci
vous.
Merci à vous.
À très bientôt sur l'antenne d'RTL. Dans un instant, la météo à 7 jours avec Louis Baudin qui m'a l'air en pleine forme. À Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne tourne pas en rond dans notre météo.
Alors,
non,
alors la météo à 7 jours, n'en parlons pas.
Bah, exactement, parce que ça va changer. Profitez de la journée d'aujourd'hui si vous aimez la douceur, parce qu'à partir de demain, c'est fini. Hein. Oui. On retourne vers du froid. En tout cas, ça va se refroidir dès demain. Pourquoi ? Parce que la perturbation là, dont je vous ai parlé, qui arrive dans le nord-ouest, elle va avoir tendance à s'étaler un peu dans la moitié nord, avec beaucoup de nuages, quelques pluies, alors des pluies qui vont petit à petit se décaler vers le nord, vers le nord-est. Et puis tout cela va s'accompagner donc d'une baisse des températures. On redescendra sous les 15 degrés. Bon, ça restera quand même largement de saison. Et puis dans le sud, on aura encore du temps sec avec une certaine douceur. Vendredi, cette même perturbation va glisser vers le sud. En arrivant sur les reliefs, d'ailleurs, elle va donner de nouveau un petit peu de neige sur les Alpes, le Massif central ou encore les Pyrénées. Ça va de nouveau blanchir. Et puis dans la moitié nord, on va retrouver du temps sec, mais avec de l'air beaucoup plus froid. On va rester bloqué l'après-midi aux alentours de 6-7 degrés. Donc attention, ça va nous faire tout
avec un beau soleil.
Avec un soleil qui va revenir petit à petit, hein, mais il sera encore plus beau.
J'essayais
pour le
de négocier là, oui.
Bah oui, oui, non, non, mais moi aussi. Mais normalement, il devrait être un peu mieux pour ce week-end où là, on va avoir du temps sec, ensoleillé effectivement, quelques brumes. Il restera quelques flocons peut-être du côté des Alpes, encore sur les Pyrénées. Donc durant ce week-end entre samedi et dimanche, mais ailleurs, donc du temps sec, du soleil et du froid. Les gelées seront généralisées le matin, notamment dans la moitié nord, et l'après-midi, on restera bloqué entre 5 et 7, 8 degrés grand maximum dans la moitié nord. C'est largement en dessous des moyennes de saison. Sera un peu plus doux dans le sud, entre 10 et 15 degrés. Et cet air froid a l'air de nous accompagner un peu en début de semaine prochaine, là, entre lundi et mardi. Hier, je vous disais, une dégradation arriverait probablement entre mardi et mercredi. Ben, je la recule un peu. Oui. Ce sera plutôt au milieu de semaine prochaine.
Retour de la fraîcheur sur le pays.
Oui,
et on va voir comment ça se passe. Hein.
C'est
toujours l'hiver, on le rappelle. Quand
oui, au mois de mars, et c'est
jusqu'au
mois intermédiaire.
Mars, officiellement. Exactement. Merci beaucoup, cher Louis Bonhomme, pour toutes ces précisions.
RTL. Vous êtes comme ça.
Vous savez que Vous êtes comme ça s'intéresse à votre quotidien avec nos reporters en région. Et ce matin, quand le parcours de soins devient le parcours du combattant. Pour les parents d'enfants handicapés ou autistes, soigner son enfant est parfois synonyme de mission quasi impossible. Encore plus quand il s'agit de soins dentaires. En Alsace, des dentistes bénévoles se sont regroupés au sein du réseau Handidents pour leur venir en aide. Bonjour Yannick Collant.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez suivi ces dentistes à la clinique Saint-François de Haguenau qui mettent à disposition une salle d'opération et un plateau technique.
Et vous me serrez la main, d'accord ? Regardez-moi, Damien.
Le docteur Michel Pluvinage prend Damien par le bras et l'emmène doucement jusqu'au fauteuil de la salle d'opération. Cette chirurgien dentiste passe beaucoup de temps à rassurer ce jeune handicapé.
Il n'y a pas à arracher dedans ?
Non. Je vais les soigner, Damien, celle qu'on avait dit. Vous savez, je vous avais montré. Ça y est, des caries. Okay.
D'accord.
Et puis un petit détartrage, d'accord ?
Ok. Tu veux dormir, hein ?
Pas encore. Dans pas longtemps. Mais le plus dur est fait.
D'accord.
Quand les gens voient Handidents, ils sont très surpris parce qu'on touche les patients. On leur caresse la main, on leur caresse la joue. Voilà. Ce qu'on ne fait plus en cabinet ou en médecine. Mais ici, le côté tactile est quand même très très important parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la main, par le contact. De dire à quelqu'un « ça va » et de le toucher et de lui prouver que c'est calme, que tout va bien, c'est quelque chose qu'on n'a plus en fait.
Autour de Damien, c'est toute une équipe de soignants qui se prépare avec des dentistes, des assistantes médicales, mais aussi des anesthésistes, comme l'explique le docteur Brigitte Mengus.
La sédation permet de faire la même qualité de soins que chez un patient classique, ce qui n'est pas possible si le patient se débat. Forcément, on ne fait pas les mêmes soins.
Damien est endormi et les dentistes d'Handidents découvrent l'étendue des dégâts.
Bon, là, il y a un peu de boulot. Hein.
Il y a 5 caries. Il y a d'importantes caries de collées. Donc, ça atteint le bord de la gencive. C'est jusqu'à la moitié de la dent. Ça provient des boissons sucrées, le soda. Les 6 caries sont soignées.
Damien est finalement envoyé en salle de réveil avec des dents comme neuves.
Mais ce type de soins n'est pas possible dans un cabinet classique ?
Non, les parents d'enfants handicapés ou autistes n'ont souvent aucune solution. À Haguenau, les patients viennent de tout le quart nord-est de la France, comme Marilyn avec sa petite Charlotte, 8 ans, polyhandicapée. Elle a fait plus de 2 heures de route depuis Thionville en Lorraine pour avoir un rendez-vous dentaire. Ici, c'est le seul endroit où elle se sent la bienvenue.
C'est galère en fait. Nous, quand on a mal aux dents, on appelle un dentiste et voilà, il nous prend tout de suite. Pour une enfant comme Charlotte, c'est très compliqué parce que bah, déjà, les enfants ne se laissent pas forcément faire de base. Et une enfant handicapée comme Charlotte qui ne comprend pas les consignes, qui n'aime pas être manipulée. Déjà, je l'ai emmenée en cabinet de ville, mais ça s'est très mal passé. La dentiste, c'est pas très délicate, elle a à peine regardé. Enfin, elle m'a dit non, c'est bon, il n'y a rien, vous pouvez partir. Donc je serais restée chez moi, je pense que ça aurait fait la même chose. Donc j'ai commencé à chercher et je suis tombée sur Handidents.
Une situation qui n'étonne malheureusement pas le docteur Michel Pluvinage qui veut faire changer le regard des dentistes sur le handicap.
Il y a encore quelques années, quand on avait un patient en situation de handicap,
On le mettait en anesthésie générale, on extrayait toutes les dents à 18 ans, c'était réglé. Il n'y avait plus de dents, il n'y avait plus de soucis. C'est une façon de voir les choses. Hein. C'est-à-dire, c'est ça, on propose des soins normaux à des patients qui ne rentrent pas dans les clous. Mais comme dit, ces enfants-là, quand vous avez un enfant handicapé, ça peut arriver à tout le monde. Et vous êtes hyper content de trouver quelqu'un qui vous dit « oui, oui, on va vous le soigner ».
Et depuis 8 ans, c'est plus de 3000 patients handicapés ou autistes qui ont pu être soignés grâce à Handident.
Merci beaucoup Yannick Collin. On retrouve tous les épisodes de Vous êtes comme ça en podcast sur le site internet et sur notre application mobile RTL.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h40 et ce matin, Isabelle Choquet, gros plan sur ces femmes qui veulent à tout prix, se refaire une virginité.
Oui, aujourd'hui encore, Yves, pour certains, une femme doit impérativement être vierge avant le mariage. C'est ce que pensent 8% des Français et le chiffre monte en flèche chez les croyants. Près d'un quart des catholiques et les deux tiers des musulmans. D'où l'importance du certificat de virginité. Il vient d'être interdit par la loi contre le séparatisme, mais il y a bien des façons de contourner la loi. Le magazine Marianne a mené l'enquête. Marianne qui pose une première vérité essentielle. En fait, il n'y a aucun moyen de savoir si une femme est vierge ou pas. On peut voir si l'hymen est plus ou moins serré, explique une gynécologue, mais ça ne veut rien dire. Certaines femmes naissent sans hymen, d'autres peuvent le rompre en faisant du sport. Malgré tout, les médecins sont régulièrement sollicités parce qu'on exige des femmes une pureté qui, au passage, n'est jamais demandée aux hommes.
Jamais.
Sur le papier, tous les médecins sont contre. Dans la pratique, certains finissent par signer car les femmes sont en danger, menacées éventuellement par leur famille. C'est le cas d'Emmanuel Pied en Seine-Saint-Denis. C'est un procédé épouvantable, imbécile et archaïque, dit-elle. Mais si on ne le fait pas, ces femmes sortiront du système de santé. Elles se feront examiner par des matrones et on ne pourra plus signaler leur situation quand c'est nécessaire. Dans les faits, elles ne vérifient jamais l'hymen et malgré la loi, elle n'a pas l'intention d'arrêter. Personne n'ira se plaindre, dit-elle, ni la patiente, ni sa famille. De toute façon, il y a d'autres moyens d'apparaître pure, des moyens bien pires, comme la réfection d'hymen. J'ai deux fois plus de demandes que pour les certificats de virginité. C'est ce que raconte la gynécologue Gada Hatem. L'hyménoplastie n'entre pas dans le champ de la loi. C'est pourtant bien plus invasif qu'un simple examen. On recoud l'hymen pour feindre la virginité. C'est un acte chirurgical sous anesthésie locale ou générale, pratiqué le plus souvent par un chirurgien esthétique. Après quelques jours de cicatrisation, l'opération est indécelable. En tout cas, c'est l'argument de vente. Là encore, le phénomène est difficile à quantifier, mais sur les forums, de manière anonyme, les femmes se confient. Je vis dans une famille très très pieuse et lorsqu'il a été question de me marier, j'ai compris que ce serait pour eux et pour mon compagnon un déshonneur d'apprendre que je n'étais plus vierge. Alors en catimini, j'ai pris rendez-vous. Des histoires comme celle-là, il y en a des dizaines. Un chirurgien confirme, il y a une vingtaine d'années, c'était très anecdotique. Aujourd'hui, ça l'est moins. Mais lui non plus, il n'a pas d'état d'âme. Ce n'est pas rare de recevoir des patientes qui me disent « si mon frère sait que je ne suis plus vierge, il me jette par la fenêtre ». La pratique est devenue un vrai business. Une hyménoplastie, c'est entre 900 et 2500 euros, jusqu'à 3000 parfois, pas remboursé, sauf pour les femmes victimes d'un viol. Et puis en quelques clics, on peut aussi dénicher des voyages all-inclusive, si on peut dire, au Maroc ou en Tunisie, où l'opération est très répandue. Pour les petits budgets, il existe d'autres procédés qui peuvent faire illusion. Pour une cinquantaine d'euros, Amazon propose par exemple des hymens artificiels.
Ah oui.
Oui, je ne connaissais pas ça. Yves, une petite poche qui contient un liquide rouge, présenté comme naturel et inoffensif. La femme l'introduit 15 à 20 minutes avant le rapport et le tour est joué. Sur le même principe, des marques de beauté proposent aussi des pilules de virginité remplies de liquide, là aussi, à ouvrir au moment fatidique. Tout cela est parfaitement légal et il y a de la demande. Les gamines, dit Gada Hatem, elles veulent saigner le jour J pour ne pas être emmerdées, c'est tout. Ascendant vierge, un article à lire dans Marianne.
Merci beaucoup Isabelle Choquet, à demain matin.
À demain.
On va retrouver Laurent Gérard dans un instant avec toute son équipe.
RTL Matin, avec Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi et bonjour tout le monde. On se souvient que le président de la République a promis aux youtubeurs McFly et Carlito que si leurs vidéos sur les gestes barrières recueillaient au moins 10 millions de vues, ils seraient invités à l'Élysée pour un concours d'anecdotes. Mm-hmm. Paris gagné pour nos deux jeunes amis, dont le clip a déjà été vu plus de 13 millions de fois.
Oui.
On retrouve donc Brigitte Macron à l'Élysée.
Oh là là, faut toujours que ça sonne à l'heure de ma gym. Je me demande qui ça peut être. Oh bonjour madame, madame là, ouais le polo manu. Non, le président est encore sur Zoom avec la chancelière allemande. Je me demande ce qu'il se raconte. À qui ai-je l'honneur? Oh madame, t'es pas reconnu là? T'es pas sur TikTok ou quoi? Je suis MC bâtard. Le rappeur de la terre de la cité de Crény. Et là, toi, t'es qui d'abord, madame?
Je suis Brigitte Macron, la première dame de France, monsieur. Qu'est-ce que vous lui voulez au président? Si c'est encore pour lui livrer des burgers en cachette, vous êtes mal tombé.
Hein? Wow! Wow! Tu sais que tu me traites de livreur à vélo de Beritz, madame. Tu me respectes. Je suis viadou pour le défi du président. Comme quoi que si on fait des vues sur YouTube, avec des gestes barrières, on peut venir tourner à l'Elysée. Et moi, j'ai un clip où je leur en fais des gestes barrières à la police. Même si je les jette moi-même, les barrières. Ah oui, ben désolé, on a déjà donné avec McFly et Carlito. Au revoir, jeune homme. Oh, mais quelle idée il est encore eu avec son concours d'anecdotes à l'Elysée. Et allez, ça continue. Résidence des Macron, j'écoute.
Pronto, Brigitte. C'est Carla Bruni au téléphone.
Ah, bonjour, madame Carla. C'est à quel sujet?
C'est au sujet du concours de vues sur YouTube. On pourrait faire un duo, toutes les deux, comme McFly et Carlito. Et si on dépasse 10 millions de vues, on amnistie mio marito.
Désolé, madame Carla, mais je vais passer dans un tunnel, ça va couper.
Non, 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 non. Je suis sûre que vous pouvez chanter avec moi. Tres, quatre. On dit que mon mari, il s'appelle Paul Bismuth.
Qui n'a téléphoné pour que le juge en le mute?
Il y a quelqu'un qui m'a dit...
Qu'il aurait un bracelet.
C'est quelqu'un qui m'a dit...
Qu'il l'aurait au mollet.
Ah là là, le boulet.
Vous nous la referez,
vous faites plaisir. Oui, il n'y a pas de problème.
Il y avait une telle sensibilité dans l'expression.
Il y a une émotion.
Oh, voilà. Une émotion, oui. Hein?
Alors. McDonald's et Burger King viennent d'ouvrir simultanément plusieurs restaurants dans l'Aveyron, créant l'hostilité de nombreux habitants. Bonjour José Bové.
Bonjour mademoiselle Jade.
Vous aviez orchestré le démontage du McDo de Millau dans l'Aveyron en 1999. J'imagine que ça vous agace.
Ben un peu que ça m'agace. Ça fait 20 ans que l'Aveyron est préservé contre la malbouffe. Et d'un seul coup, on est envahi par les burgers. C'est pire que le Covid, cette saloperie.
Bah, écoutez, si les gens ont envie de manger des burgers...
Mais c'est pas le burger le problème, c'est la malbouffe industrielle. Un bon burger aveyronnais, je suis le premier à en manger.
Eh bien justement, profitez-en, donnez-nous votre recette de burger aveyronnais.
Bah déjà, t'achètes un steak haché de bœuf de l'Aubrac chez le boucher.
Oui.
Hein, ouais, je sens que Monsieur Calvi est intéressé.
Là, je suis d'accord, oui.
Tu le fais revenir sur le moteur encore chaud du tracteur. Sel, poivre, au pire, t'as pas de sel, tu peux le saupoudrer avec tes croûtes de pied, ça donne un petit goût. Petit goût de parmesan, c'est pas dégueulasse.
Oh, ça partait bien, mais c'est dégoûtant.
Mais non, fais pas ta chuchote. Ensuite, tu fais griller deux belles tranches de pain complet bio. Tu ajoutes une belle tranche de cantal, mais du vieux, avec des petits vers qui grouillent dans la croûte aussi. Sinon, ça n'a pas de goût, puis ça donne des protéines comme ça.
Bon, je suis pas sûr, mais admettons, après.
Alors, tu rajoutes une feuille de salade du jardin, mais attention, pas laver la salade. Hein. Comme ça, tu peux récupérer les limaces, ça remplace les cornichons.
Mais enfin, ça ne se mange pas, les limaces.
Mais bien sûr que si, c'est super bon, c'est plein de protéines aussi. Tiens, tiens, attends, je vais te faire goûter, j'en ai justement une coincée dans ma moustache.
Non, ça va aller, merci.
Je suis pas certaine que tous les Aveyronnais mangent le burger comme vous. Hein.
Détrompe-toi, c'est justement un cuisinier aveyronnais qui m'a donné la recette.
Ah oui.
Un petit gars né à Rodez.
Non.
Vous voyez qui veut dire Cyril Lignac, qui s'appelle.
Bah, il est pas loin, justement.
Je ne laisserai jamais remettre en cause l'hygiène de notre Cyril Lignac. Jamais. Il est parfait.
Une proposition de loi visant à interdire l'écriture inclusive dans des documents administratifs est actuellement débattue à l'Assemblée nationale. C'est le sujet du nouveau numéro de Doigt de réponse, l'émission de débat de Patrick Sébastien.
Générique.
Salut. Salut à tous. Point TES. Et bienvenue dans Doigt de réponse, l'émission qui met un doigt au patriarcat. On parle aujourd'hui du projet de loi contre l'écriture inclusive avec Jacqueline Delarey, la présidente d'Oser le clitorisme.
Bonjour.
Elle débattra aujourd'hui avec...
Jacqueline.
Oui,
ça va.
Elle débattra aujourd'hui avec un philosophe qu'on ne présente plus. Regardez-le, on n'a pas encore commencé, qu'il est déjà tout rouge de colère. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sous vos applaudissements, Alain Finkielkraut, monsieur Finkielkraut.
Bonjour.
Ouais. Mais bon, on est une émission féministe et il faut être galant avec les bonnes femmes. Alors donc, je commence avec toi, ma Jacouille. T'en penses quoi de ce projet de loi contre l'écriture inclusive?
Je pense qu'il trahit l'inquiétude du patriarcat, mais le progrès est en marche et rien ne pourra l'arrêter, n'en déplaise aux militants .es réactionnaires.
Quoi nous derrière? Bon alors, Bon, Finky, j'imagine que t'es d'accord avec Jacouille.
En effet, Élise Cioran a dit « On n'habite pas un pays, on habite une langue. Une langue qui se doit donc d'être commune à tous, ce qui n'est pas le cas de l'écriture inclusive, qui n'est commune qu'à une minorité d'hystérogauchistes dégénérés.
» Macho.
Gna gna gna, pauvre conne. Eh ben voilà, je crois qu'on a bien fait le tour de la question. C'est maintenant oui. aux députés, point, T-E-S, que... de trancher, puis au sénateur, point, tris. Putain, c'est vrai que c'est chiant à parler, hein, l'écriture inclusive. On a l'impression de cracher des poils de cul à chaque mot.
Non, non.
La semaine prochaine, on essaiera de répondre à la question. Faut-il enseigner les études de genre à l'école primaire avec Jean-Claude Dacier, Éric Zemmour et Michel Sardou? D'ici là, prenez soin de vous et surtout, soyez bienveillants. Poil au gland.
Culturebox, la chaîne culturelle de France Télévisions, est parfois jugée trop élitiste.
Ah bon ?
C'est pourquoi ses dirigeants travaillent sur des remises au goût du jour des grands films populaires. Les films chantants de l'inoubliable Jacques Demy devraient eux aussi faire l'objet d'une contextualisation sanitaire comme celui-ci, intitulé « Une chambre en ville à l'hôpital ». Comment ça va, Edouard ? Que s'est-il donc passé ? Tu as l'œil au beurre noir et le nez tout gonflé.
J'étais à la piqûre pour faire mon vaccin. J'ai dit à l'infirmière de me montrer ses...
Bouzi, bouza. Vraiment, tu exagères, t'es déjà vacciné. Les piqûres de Pfizer, faut pas en abuser.
C'est AstraZeneca, qui a des effets secondaires. Une piqûre dans le bras et tu bandes comme un...
Bouzi.
Ah là là, bah écoute, vous êtes, oui, vous êtes très bousy tous les deux.
Très très bousy-bousa ce matin.
Et comme un bonheur ne vient jamais seul, j'ai l'honneur de vous annoncer que M. Lignac va nous parler à Rancini dans quelques instants. Alors ça, j'adore sa spécialité.
Oui. Je ne sais pas où c'est.
Ça se fait en Italie et plutôt sur une île qui serait un peu au sud. Vous voyez. Avec des volcans à côté.
D'accord.
C'est très 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 très,
très bon.
Alors oui, absolument. Alors on vous retrouve sur le site RTL.fr et puis on a rendez-vous demain matin.
Voilà.
À demain.
RTL Matin, Yves Calvi.
Vous le savez, c'est l'heure de Cyril Lignac. Bonjour cher Cyril.
Bonjour.
Toutes les questions de nos auditeurs sont les bienvenues pour ça. Rendez-vous sur rtl.fr/participer. Et c'est Clément de Mulhouse qui voudrait connaître votre secret pour des arancini savoureux, mais pas trop gras. Expliquez-nous peut-être d'abord ce que sont les arancini. Hein.
Alors ça tombe bien parce que je vais, dès qu'on pourra, ouvrir un restaurant qui s'appelle Ischia.
Ah oui.
Qui est donc Ischia, une petite île dans le sud de l'Italie, vers Naples. Et
c'est juste en face de Naples.
Exactement. Et de Capri, dans cette belle région.
C'est,
et donc
c'est à côté de Capri, et de mon point de vue, c'est plus joli que Capri. Mais après, c'est une question
tout
de goût.
Plus petit, voilà, moins, voilà, plus moins touristique, exactement. Ouais. Et donc, on mange les arancini, en fait, ce sont des petites boules croustillantes de risotto. Donc, on fait un risotto. Alors, on fait un risotto safrané, c'est-à-dire des oignons, on ajoute le riz, on fait éclater les graines de riz, on déglace au vin blanc, on mouille avec du bouillon, et là, on laisse cuire pour avoir ce bon risotto. Pour faire des arancini, il faut faire le risotto la veille
bien sûr.
Ou, ce que je dis aussi, quand on fait un bon risotto et qu'il nous en reste, on ne le jette pas, on le met au frais. Et le lendemain, on reprend le risotto. Et là, on fait ça. Des petites boules, vous adorez ça.
J'adore.
On fait les petites boules de riz. Voilà. Et alors, moi, je rajoute soit au creux de la boule de riz un tout petit peu de mozzarella, ou si je fais un petit ragoût, un petit mijoté de veau, je mets à l'intérieur un petit peu de ragoût, un petit peu de mozzarella, et je referme avec ma boule de riz. Ensuite, eh bien, on le panne tout doucement, c'est-à-dire on met dans l'œuf, on met dans la chapelure et après on frit.
Très bien.
Donc quand on a frit, on a cette pellicule très croustillante, le riz à risotto à l'intérieur, comme ça on ne jette rien. Et en plus on a le fondant de la mozzarella, le ragoût. Et alors on peut le manger, vous me disiez, avec une sauce tomate.
Ah, parfois, oui. Ouais. Un petit peu relevé, c'est très agréable.
Ou, moi j'allège un peu si c'est un peu l'été, fromage blanc citronné.
Délicieux.
On a les beaux citrons de la côte amalfitaine. Et on met ça. Et donc, alors moi je les aime bien en apéritif.
Oui. Moi, je les aime bien en entrée.
Alors, justement.
Moi, je suis gros mangeur, c'est la différence. Vous avez vu, vous êtes mince, beau, jeune. Ben voilà. Ah là là.
Allez, eh bien, on se fera une petite partie d'arancini quand
je Je suis tout à fait d'accord. À Ischia, à demain.
À demain.
Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Un point tout de suite sur l'actualité avec Jérôme Flore.
Fabien Galthié, dédouané par l'enquête interne de la Fédération française de rugby, le sélectionneur du 15 de France, n'est pas à l'origine des contaminations au sein du groupe, dit le rapport qui sera remis tout à l'heure à la ministre des Sports. Il était pourtant sorti de la bulle sanitaire pour aller voir un match de son fils, le médecin de la Fédération, Roger Salamon.
Dans mon rapport, je le mets au début, il est parfaitement clair que ce qu'il a fait, quoi qu'on puisse en penser, il avait le droit de le faire et qu'il n'y avait aucun risque particulier. Et d'ailleurs, ce n'est pas lui le patient zéro, ça c'est évident virologiquement, à la distance à laquelle il est allé voir son fils et à la distance à laquelle il y a eu des premiers cas. Et je ne dis pas ça pour le défendre, il n'a pas besoin d'être défendu, je dis ça parce que c'est la vérité.
Nouveau conseil de défense sanitaire aujourd'hui à l'Élysée. 3 départements pourraient être placés à leur tour sous surveillance. L'Aube, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. La situation en revanche s'améliore un peu en Moselle et autour de Nice. Emmanuel Macron fait un nouveau geste d'apaisement en direction de l'Algérie au nom de la France. Il reconnaît que le militant nationaliste Ali Boumendjel a été torturé et assassiné par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Un crime alors maquillé en suicide. Et puis Nicolas Sarkozy contre-attaque. L'ancien président condamné à un an ferme pour corruption et trafic d'influence dénonce dans le Figaro une injustice profonde. Il envisage de saisir la Cour européenne des droits de l'homme.
Merci beaucoup, Jean.